Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Il y a quelques mois, les chiffres, tout était en vert. Et là, du coup, c'est l'ascenseur émotionnel. On passe de tout à rien et c'est très dur moralement.
C'est la ville Airbus Toulouse, frappée de plein fouet. Le plus gros du plan social de l'avionneur y sera mené. 3500 emplois vont disparaître.
Les salariés sont sonnés. Nous sommes sur place dans quelques secondes.
Le suspense à Marseille. La droite joue l'unité pour tenter d'arracher la ville à la gauche qui est pourtant arrivée en tête dimanche dernier. Martine Vassal se retire.
Je ne suis pas une personne qui me livre à des petits arrangements pour avoir un poste. J'ai fait le choix de la sagesse. Je ne veux pas faire tomber Marseille dans l'extrême gauche.
On vous raconte cette bataille et personne ne peut prédire ce soir qui sera finalement le maire samedi.
Dans ce journal également, la procureure générale de Paris dément toute pression politique dans l'affaire Fillon.
Le professeur Raoult et ses ennemis, la guerre est déclarée. Le conseil scientifique dénonce ses propos infamants et calomnieux.
À quelques jours des vacances, attention, crème solaire pour les enfants. Deux associations alertent sur des substances dangereuses.
Des allergènes, des nanoparticules, des substances toxiques également. Il n'y a pas une seule crème solaire qui n'a pas au moins une substance préoccupante.
Et puis Roland Garros se déconfine, la billetterie va ouvrir, 20 000 spectateurs par jour seront admis sur les courts fin septembre. La Bourse de Paris en forte hausse ce soir après les bons chiffres de l'emploi aux États-Unis, plus 2,5%. Le CAC 40 passe au-dessus des 5 000 points.
Et bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le ciel avec vous.
Et bien demain, c'est un temps beaucoup plus calme sur la France avec beaucoup plus de soleil, quelques coups de tonnerre encore par endroits. Les températures sont en dessous des moyennes de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
2400 emplois à la production, presque un millier au siège et plus de 200 dans les filiales. C'est tout l'écosystème Airbus qui est touché et qui fait trembler Toulouse et ses environs. La ville capitale de l'aéronautique va subir la plus grosse part du plan social. 3500 postes vont disparaître. Benjamin Peter, vous avez rencontré aujourd'hui des employés désemparés face aux détails du plan annoncé aujourd'hui.
Oui, ce sont des cols bleus, des compagnons comme on les appelle chez Airbus, qui travaillent ici sur les chaînes d'assemblage et qui pensaient avoir un avenir tracé et qui doutent pour la première fois à l'image de Fabien. Il est intérimaire depuis 5 ans, il devait être embauché, son entretien était calé pour avril, mais le confinement a tout stoppé et fin septembre, il sait qu'il devra partir.
Je repars de zéro du coup, c'est très dur moralement. Déjà de voir les collègues partir un par un en intérim et du coup l'embauche, la voir s'éloigner encore une fois. Et il y a quelques mois, les chiffres, tout était en vert, on parlait d'augmentation de cadence et là, du coup c'est l'ascension émotionnel. On passe de tout à rien et c'est vrai que ça devient extrêmement compliqué maintenant.
Même sentiment pour Manuel. Lui est embauché depuis 4 ans, juste à sa sortie du lycée Airbus. Il s'attendait à faire carrière ici, alors cette incertitude sur son avenir, il a beaucoup de mal à la vivre.
On attend, c'est comme une roulette russe, on ne sait pas qui va partir. On se regarde tous entre nous. Les jeunes embauchés, ils se demandent si c'est eux qui vont partir en premier. Le problème, c'est qu'on est qualifié juste pour la mécanique aéro. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de débouchés. On ne trouvera pas d'emploi chez les sous-traitants ni rien.
Alors les négociations entre les syndicats et la direction doivent s'ouvrir lundi jusqu'à fin octobre. Des syndicats qui demandent qu'il n'y ait aucun licenciement sec et qu'on privilégie les départs volontaires.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Et ce soir, le président d'Airbus estime que 3500 emplois sur les 15 000 supprimés au total peuvent être sauvés si la France et l'Allemagne apportent leur aide.
L'économie ce soir, c'est aussi ces chiffres inquiétants pour le secteur de la construction.
Le secteur à l'arrêt à cause du confinement. Les mises en chantier sont en recul de 44% entre mars et mai. Gros retard aussi sur la délivrance des permis de construire. Ce sont des dizaines de milliers d'immeubles et de maisons qui risquent de ne pas être bâtis cette année.
L'autre deuxième grand titre ce soir, c'est ce feuilleton marseillais à suspense. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Impossible de prédire ce soir finalement qui sera maire de Marseille.
Le conseil municipal est prévu samedi, le fameux troisième tour. Alors la gauche, on le sait, est arrivée en tête dimanche dernier, mais avec une majorité relative. Donc il n'est pas certain que la chef de file Michèle Rubirola soit élue, car en face, la droite s'organise. Nathalie Chevance et joue l'unité. Aujourd'hui, la candidate Martine Vassal s'est retirée.
Oui, Martine Vassal qui passe finalement la main pour récupérer trois petites voix, celle du dissident LR Bruno Gilles, et réaliser l'union de la droite et du centre. Un rassemblement rendu possible par le retrait de celle qui était présentée comme l'héritière de Jean-Claude Gaudin. Et c'est là qu'il faut ressortir les calculettes. Avec ces trois nouveaux conseillers, les Républicains arrivent à égalité avec le printemps marseillais. 42 voix chacun au conseil municipal, en se passant des voix de la très courtisée Samia Ghali, ex-PS, qui elle n'a toujours pas pris position. De quoi agacer l'ex-candidat à la mairie Martine Vassal.
Je ne ferai pas de compromission. Je ne suis pas une personne qui me livre à des petits arrangements pour avoir un poste. J'ai fait le choix de la sagesse, j'ai fait le choix de l'expérience et du respect de l'Union. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de présenter Guy Tessier. C'est un homme de consensus. Je ne veux pas faire tomber Marseille dans l'extrême gauche.
Et voilà un candidat LR de 75 ans pour le poste de maire qui, en cas d'égalité avec le printemps marseillais, l'emporterait automatiquement au troisième tour parce qu'il est le doyen. Guy Tessier, député, s'y voit déjà.
Je serai un candidat de rassemblement. Je ne serai pas un maire autoritaire et je souhaite avoir une opposition qui soit constructive.
Mais rien n'est encore joué pour le moment, car le printemps marseillais compte bien rallier à sa cause Samia Ghali, forte de ses 8 sièges, ce qui redonnerait l'avantage à la gauche. Là aussi, les tractations sont en cours.
Nathalie Chevance à Marseille, on va suivre évidemment ce feuilleton. La politique, c'est aussi le prochain acte qui se prépare en coulisses. Dernière consultation ce soir à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit les présidents des trois assemblées. Interview demain à paraître dans la presse régionale et probable remaniement du gouvernement dans les tout prochains jours.
Et peut-être les meilleurs extraits hein, de cet entretien aux alentours de 19h. De toute façon, on en discute, on en débat, on avance aussi à des éléments avec les grandes voix dès 18h30. Dans ce studio.
Quatre des policiers arrêtés en Seine-Saint-Denis ont été mis en examen aujourd'hui. L'un pour violence et détention de stupéfiants, les autres pour faux et usage de faux en écriture pour des procès-verbaux maquillés. Tous font partie de cette compagnie de sécurisation et d'intervention du 93 qui va être dissoute, confirme ce soir le préfet de police de Paris qui pointe des faits d'une particulière gravité. Et puis cette première mondiale, une enquête hors norme menée notamment par des gendarmes français a permis de décoder les communication d'un réseau crypté utilisé par la grande criminalité. On y discutait de trafic de drogue, de blanchiment d'argent ou même de meurtre. On y reviendra dans le journal de 19h.
Elle est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours maintenant, accusée d'avoir fait pression sur l'enquête visant François Fillon. La procureure générale de Paris a dû s'expliquer aujourd'hui.
Et Catherine Chanrenaud était interrogée par les députés d'une commission d'enquête et face aux accusations de la chef du parquet financier, elle réfute toute pression politique, Chloé Triomphe.
Oui, et sur un ton assez ferme d'ailleurs. Elle a rappelé aux parlementaires le cadre législatif voté par eux et par leurs prédécesseurs qui permet justement à la hiérarchie judiciaire d'avoir des remontées d'informations sur les dossiers sensibles, cadre légal qui interdit aussi dans l'autre sens, dans le sens descendant, de donner des instructions. Catherine Chanrenaud se défend d'avoir subi ou répercuté la moindre pression, y compris dans l'affaire Fillon.
D'abord, je voudrais dire avec force que je n'ai reçu dans l'affaire Fillon, comme dans tous les autres dossiers relevant de mon contrôle hiérarchique, aucune instruction du pouvoir exécutif et qu'ainsi je n'ai jamais, jamais relayé une demande du garde des Sceaux ou du pouvoir exécutif pour influer sur le traitement des procédures.
Alors Chloé, la commission d'enquête a aussi interrogé aujourd'hui le président du tribunal pour lui demander pourquoi il a choisi de confier le dossier au juge Tournaire.
Oui, ce juge détesté par la droite pour sa pugnacité qu'il a notamment conduit à renvoyer devant un tribunal correctionnel Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Jean-Michel Ayat a donc défendu son choix en expliquant comment, en conscience et par élimination parmi les 9 magistrats possibles, par souci d'équilibre aussi des dossiers sensibles, eh bien il en est venu à lui confier, à lui et à 2 autres magistrats, cette affaire. Et puis en rappelant aussi que cette désignation n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des avocats du couple Fillon.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Aujourd'hui, pour la première fois, un tribunal a reconnu la responsabilité de l'État dans le scandale de la Dépakine, ce médicament anti-épileptique utilisé par de nombreuses femmes au cours de leur grossesse.
Entre 15 et 30 000 enfants, 15 000 et 30 000 enfants exposés in utero ont développé des formes de handicap. Le tribunal administratif de Montreuil a condamné aujourd'hui l'État à indemniser 3 familles.
Pour des montants d'environ 200 000 euros. Écoutez l'avocat de plusieurs de ces familles, Charles-Joseph Houdin.
L'État, les agences de santé, ont commis une faute dans l'exercice de la police sanitaire dont ils ont la responsabilité, notamment en n'informant pas correctement les patientes des risques liés à l'exposition in utero des enfants à la Dépakine. On peut retenir de cette décision, bien sûr, la responsabilité de l'État, mais aussi la responsabilité des médecins et la responsabilité du laboratoire. Les médecins sont tenus à indemniser entre 10 et 60% selon les dossiers, le laboratoire de 20 à 50% selon les dossiers et l'État de 20 à 40%. Donc on a un partage de responsabilité entre les 3 acteurs, mais le principe de la faute de l'État est jugé.
Propos recueillis par Marion Dubreuil. Le laboratoire Sanofi est de son côté poursuivi au pénal, mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires.
Et on l'apprend ce soir, le parquet de Versailles demande un procès pour Karim Benzema.
Et c'est l'affaire de la sextape avec laquelle il est accusé d'avoir contribué à faire chanter son camarade chez les Bleus, Mathieu Valbuena.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition de 18h, la colère du monde médical après les propos du professeur Raoult devant les députés.
Et puis des substances dangereuses dans les crèmes solaires. Enfin, on parlera de Roland Garros qui ouvre sa billetterie. Europe 1.
18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et le professeur Didier Raoult qui continue décidément de faire des vagues, il ne compte plus ses ennemis. Ses dernières déclarations devant les députés ne passent pas, définitivement pas dans le monde médical.
On vous en parlait dès ce matin, le patron des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, accuse le professeur marseillais de faux témoignages devant les députés et la Haute Autorité de Santé a réagi à son tour, tout comme la quasi-totalité du conseil scientifique avec son président, le professeur Delfraissy, qui parle de propos infamants, Victor Delorme.
Oui, ils sont tous très en colère contre les accusations répétées de conflits d'intérêts entre les membres du conseil scientifique et les laboratoires pharmaceutiques, les laboratoires Gilead en l'occurrence, qui fabriquent le Remdesivir, un médicament qui a été envisagé un temps comme un traitement pour soigner les malades du coronavirus. Écoutez Didier Raoult la semaine dernière devant la commission d'enquête parlementaire, il pointe sans jamais le nommer un membre du conseil scientifique.
Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. Moi, j'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il faisait, d'ailleurs, je répondrais en le revoyant. Je le ferais pas.
Ces propos sont infamants et dépourvus de tout fondement, écrit Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, dans une lettre envoyée aux députés de la commission d'enquête. C'est de la calomnie, renchérit la présidente de la Haute Autorité de Santé, dont certains membres ont également été pointés du doigt par le professeur marseillais. Un deuxième front contre Didier Raoult vient, lui, des hôpitaux de Paris, de la PHP. Le directeur général Martin Hirsch l'accuse carrément de faux témoignages. D'abord sur la mortalité en réanimation à Paris et à Marseille. Il conteste les chiffres avantageux pour Marseille, avancés par Didier Raoult. Et puis sur la prise en charge à Paris d'un patient chinois de 80 ans qui aurait été renvoyé chez lui, malade, par un hôpital parisien, selon Didier Raoult. Là aussi, Martin Hirsch dément formellement.
Les précisions de Victor Delorme du service Société d'Europe 1.
Venons-en maintenant à cette alerte sur les crèmes solaires pour enfants.
Avec deux associations de défense de l'environnement qui ont étudié la composition de 71 produits. Ces crèmes contiennent quasiment toutes des substances problématiques, certaines extrêmement préoccupantes, disent ces associations. Elles demandent la saisine de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Écoutez Magali Ringot de l'association Agir pour l'environnement.
À la fois, on veut protéger les enfants du soleil et en même temps, on les expose à des substances chimiques de type perturbateurs endocriniens, des allergènes, des nanoparticules, des substances toxiques également. Pour l'environnement, on voit que ça touche par exemple le phytoplancton et on sait que ça c'est à la base de la chaîne alimentaire. Donc ça s'accumule dans l'environnement et on peut le retrouver in fine dans nos assiettes. Ce qu'on a trouvé comme principal résultat, c'est qu'il n'y a pas une seule crème solaire qui n'a pas au moins une substance préoccupante. Et il y a plus d'une crème solaire sur deux qui a au moins une substance extrêmement préoccupante. Il faut se tourner vers les moins pires, on va dire, puis essayer de décrypter les étiquettes, reporter à notre classement pour éviter les plus problématiques.
Magali Ringot de l'association Agir pour l'environnement, elle répondait à Angèle Châtelier.
Il y aura bien du public à Roland-Garros, oui. Le tournoi démarre le 21 septembre.
Et ça y est, on a les détails, les conditions dans lesquelles les spectateurs pourront être accueillis. Bonsoir Corinne Boulou.
Bonsoir.
20 000 personnes, un maximum par jour, c'est la jauge. La billetterie va ouvrir très vite, hein, dans quelques jours.
Oui, il y aura deux fois moins de public donc habituellement, mais il y aura du public, contrairement à l'US Open qui est programmé fin août à huis clos à New York. La Fédération française de tennis, organisatrice du tournoi, a obtenu le feu vert des autorités pour accueillir au début du tournoi 20 000 personnes par jour dans le stade. 10 000 le jour de la finale, avec une distinction entre les grands cours pour le placement des spectateurs, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-François Villotte, le directeur général de l'AFFT.
Sur les cours annexes, il y a 1/2 de sièges neutralisés. Et sur les cours principaux, quand ils achètent des billets ensemble, les gens acceptent au maximum d'être 4 les uns à côté des autres. Donc c'est la simplicité.
Comme au cinéma.
C'est la règle qui est actuellement en vigueur pour les spectacles de type théâtre ou cinéma.
Voilà, le président de la Fédération, Bernard Giudicelli, qui a annoncé aussi l'ouverture de la billetterie, donc jeudi prochain, le 9 juillet, pour les licenciés. Et une semaine plus tard, le 16 juillet, pour le grand public, à noter encore que le port du masque sera recommandé aux abords du stade comme dans les gradins et obligatoire pour se déplacer dans l'enceinte de Roland-Garros.
Voilà, on a bien noté les détails. Merci Corinne Boulou du service des sports. Roland-Garros, ce sera bien sûr à suivre sur Europe 1, radio officielle du tournoi. Et puis une dernière bonne nouvelle arrivée aujourd'hui, Novak Djokovic est guéri. Ça y est, tout comme son épouse, il a été testé négatif au Covid. On sait qu'ils étaient tous les deux positifs il y a 10 jours après un tournoi dans les Balkans. Depuis, le numéro 1 mondial est resté confiné. Il n'a eu finalement aucun symptôme.
Oui, ce tournoi à son initiative. Hein. Merci beaucoup Sébastien Krebs. À tout à l'heure, 18h30. Anissa, un peu plus de soleil demain ?
Oui, ça y est, enfin. Vrai. Je vous l'avais promis, hein. Je vous avais dit que la fin de semaine serait quand même beaucoup plus sympathique que le début. Et ben, ça commence dès demain avec sur l'ensemble du pays une matinée assez agréable et ensoleillée. Bon, on aura quelques passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Attention tout de même sur les Alpes du Sud, sur les reliefs corses et sur la Côte d'Azur, où nous aurons encore demain matin et demain après-midi des averses qui prendront un caractère orageux, avec même des chutes de grêle attendues, notamment en Côte d'Azur. Le Mistral se renforce demain avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Mais sur l'ensemble du pays, hein, à part le sud-est bien sûr, eh bien il fait beau demain, le temps est calme et sec. Le vent souffle aussi sur les côtes de la Manche, le vent d'ouest, jusqu'à 90 km/h. Les températures 9 à 15 degrés demain matin, jusqu'à 21 en bord de mer. Et puis dans l'après-midi, toujours par endroit, des moyennes de saison bien en dessous, des normales, avec 18 à Boulogne-sur-Mer, 20 à La Rochelle, 22 à Saint-Etienne, 24 à Paris, 26 à Carcassonne. Dans le sud, il fait chaud. 28 à Avignon, 30 à Montpellier, 30 à Nîmes.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy.
Et oui, un invité en Tour de France, un invité qui fait campagne. Il sillonne le pays au contact des clubs de foot amateurs. Son envie, déloger tout simplement Noël Le Graët, patron de la Fédération française de foot. Louise Fernandez répond à mes questions dans 2 minutes sur Europe 1. Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité Nathalie Lévy à 18h20. Vous recevez ce soir un homme en campagne, l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez.
Bonsoir Luis Fernandez.
Bonsoir.
Bienvenue mon micro sur Europe 1. Oui, un homme en campagne. Vous avez débuté une espèce de tour de foot amateur hier en allant à Torcy, en Seine-et-Marne notamment. Quel est le but ? Quel est le but de cette démarche ?
Le but de ma démarche, c'est quand on prend des engagements avec pas mal de personnes, des entraîneurs, des éducateurs, des formateurs, et ben c'est d'aller les voir, c'est de parler avec eux, d'échanger avec eux, de voir leur quotidien. Voilà, moi je m'intéresse au football amateur parce que j'en viens, j'ai grandi dans le football amateur, et puis voilà, on arrive à un certain âge aussi qu'on a envie de tout ce que le football vous a apporté, tout ce que le football vous a donné, ben c'est grâce à ce football-là, grâce à ces gens-là. Bah hier, je me suis déplacé, j'étais voir des gosses s'entraîner, puis j'étais voir même un tournoi de quartier que j'ai envie de, qui me plaît, ça me plaît les tournois de quartier aussi, voilà, c'est de voir cette jeunesse et s'en occuper, de les regarder, de les observer un peu, puis voilà, c'est un engagement que j'ai pris, voilà.
Un engagement, mais avec quand même un objectif, les prochaines élections à la Fédération, évidemment, Luis Fernandez. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce que vous avez envie de leur faire comprendre ? Il n'y a pas assez d'anciens grands joueurs, par exemple ?
Non, moi, je ne suis pas candidat à la Fédération. Je suis quelqu'un qui aimerait voir un peu que ces anciens qui ont contribué, qui ont apporté au football français, puissent intégrer, puissent rentrer dans les instances, puissent aller dans les districts, dans les ligues, parler, apporter ce qu'ils ont apporté au football, parce que quand je me déplace, je suis remarquablement bien reçu. Ouais.
Pourquoi
on sent que les gens sont heureux.
Pourquoi vous fermez la porte à cette candidature ?
Non, parce que je ne me sens pas je suis pas dans une approche de candidature d'être un président. Je suis quelqu'un qui a toujours, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, en tant que capitaine ou en tant que dans un collectif, c'était de rassembler. Vous savez, le football, c'est un sport collectif. Il faut pas diviser. Et moi, dans ma démarche, je veux que on puisse se rassembler le maximum de formateurs, d'éducateurs, de présidents qui veulent nous écouter, parce que le football aujourd'hui va traverser certainement une période un peu plus compliquée que par le passé, parce que dans le passé, il y avait énormément de moyens. Là, il y en a de moins en moins. Il y a cette fameuse crise qui est là. Il y a de ne pas oublier ce virus. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut reconstruire, il faut repartir. Et moi, je suis dans cette dynamique, on va dire.
D'accord. Alors voilà. Donc, le rassemblement, c'est vraiment le mot-clé, avec moins de moyens aussi, hein, j'entends ce que vous dites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rassemblement, c'est pas l'évidence dans le football français. Et évidemment, si je vous pose la question, ça veut dire que Noël Le Graët passe à côté de ce rassemblement?
Je sais pas qu'il passe à côté, c'est qu'il y a encore eu des décisions qui ont été prises pour que le football amateur... doivent certainement aussi contribuer à porter. Le football amateur n'est pas suffisamment assez riche, vous savez, ce qui est... Moi, je ne suis pas de ceux qui est en train d'avoir une cible. Je suis en train d'écouter, de regarder. Et puis pendant le confinement, on a vu que beaucoup de dirigeants, beaucoup de syndicats se sont un peu trop vite prononcés. Mmh. Et à mon goût, il fallait quand même être un peu plus patient, comme le font certains de ces pays à nos côtés, qui le font bien, parce que on le voit, ça a repris.
Ouais. Est-ce que vous visez directement, allons-y, est-ce que vous visez directement Noël Le Graët, aujourd'hui 78 ans
Non, moi je ne vise pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'on puisse un peu changer un peu tout ce fonctionnement-là. Vous savez, de temps en temps, si vous ne dites rien, si vous ne parlez pas, si vous ne vous exposez pas, et bien automatiquement, on vous prend des places qui seraient certainement peut-être plus profitables à des anciens qui ont un passé, qui ont une connaissance, qui ont des compétences. Mettez-moi les, il y a des places où on peut éventuellement intégrer des anciens. Je ne demande pas que des anciens. Il n'y a pas que 84-98. Je veux qu'aussi sur le territoire français, il y a aussi des garçons qui ont été des exemples dans le football. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous les citer.
Un ou deux, Louis Fernandez, qu'on cherche de qui on parle.
Vous savez, Jérémy Toulalan, c'est un garçon qu'on ne voit plus aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'aimerais bien si vous avez le petit Nivet qui a joué à 3.
Benjamin.
Des garçons c'est pour ça qu'il y a des garçons comme ça qui sont des exemples, qui peuvent éventuellement être dans des structures sportives.
D'accord. J'entends très simplement, Louis Fernandez, est-ce qu'aujourd'hui, Noël Le Graët, qui aura 79 ans en mars 2021, est-il encore l'homme de la situation?
Je ne sais pas s'il est encore l'homme de la situation, il faut lui poser la question en direct.
Votre avis, bien sûr.
Ce qu'on peut éventuellement lui demander, c'est qu'il puisse regarder, qu'il puisse ouvrir un peu ses portes pour d'autres qui peuvent éventuellement... Vous savez, le football, il n'y a pas que le sportif, il y a aussi l'administratif, il y a aussi le financier, il y a aussi... vous savez, dans chaque région, il y a des partenaires, il y a des entreprises, il y a ces anciens qui peuvent aussi aller dans ces éléments-là pour apporter au football amateur.
Mais son bilan, vous le saluez quand même, l'Euro en France, la Coupe du Monde féminine.
Attendez. Le bilan, les joueurs, c'est des garçons qui sont professionnels, qui gagnent une Coupe du Monde. Hein. Moi, j'aimerais bien faire une synthèse un peu, un bilan sur le football amateur. Moi, il y a le football amateur, il y en a certains qui ne sont pas contents, qui sont un peu déçus.
C'est ce qu'ils vous disent, par exemple, à Torcy, c'est ce qu'ils vous ont dit. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Non, à Torcy, ils m'ont peut-être pas tout dit, parce que, vous savez, quand vous rencontrez une dame à Torcy qui s'occupe directement, elle seule, de l'administratif, de tous les licenciés, quand vous savez que ce que les parents, aujourd'hui, par rapport à des licences, mais ça coûte aussi de l'argent, il y en a certains qui n'ont pas les moyens. Hein. Vous croyez que dans le football amateur, tout le monde a les poches pleines pour aller s'acheter des survêtements, des chaussures, des licences? Non, madame, il faut comprendre. Hein. Moi, je voudrais peut-être revoir ça un peu plus, un peu moins haut, et peut-être redescendre un peu, et refaire peut-être différemment. C'est pour ça que quand je vous parle, moi, de mon projet, c'est que je suis quelqu'un que je veux que ça rassemble dans toute la région de France, le territoire, et que chacun de ces personnes puisse intégrer ces régions-là, ces districts-là, ces ligues-là, parler avec tout le monde, échanger, et vous verrez comment ça va changer.
Il y en a d'autres qui ont essayé. J'entends, mais Louis Fernandez, un ancien grand joueur, Emmanuel Petit, champion du monde, a souhaité aussi s'investir dans les instances il y a quelques années. Ça n'a pas franchement fonctionné. Ça ne vous décourage pas?
Vous avez vu quand même. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est que quand on a Emmanuel Petit qui se présente, on aurait pu quand même lui tendre la main, même s'il a été battu, même s'il s'est présenté avec quelqu'un d'autre. C'est Emmanuel Petit, champion du monde, qui a une carrière, qui a quand même... C'est quelqu'un d'exemplaire. Et si maintenant, on ferme les portes, excusez-moi. Vous voyez, vous me donnez un exemple de... Ça me met hors de moi. Ça veut dire que s'il était dans une liste, c'est quelqu'un qui va rassembler, c'est quelqu'un qui peut parler football, qui connaît le football. Et c'est pour cela que, quand vous me citez ça, il y en a d'autres que j'aimerais les voir arriver et puis prendre des places, et c'est tout, voilà.
Merci beaucoup, Louis Fernandez, votre franchise, évidemment, qu'on connaît bien. Merci à vous de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. Évidemment, les grandes voies, le remaniement, on y est presque, ça bouge évidemment, hein, ça s'agite dans tous les sens, on en parle avec Catherine Ney, Michel Cotta, Jean-Yves Baudot dans ce studio.
Europe 1.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir
Nathalie. Bienvenue bonsoir toutes, ce jeudi dans ce studio. Alors voilà, hein, ça s'agite évidemment. Que se prépare-t-il en coulisses? Dernière consultation ce soir à l'Élysée. De quoi parle-t-on bien sûr du prochain remaniement? Emmanuel Macron reçoit les présidents des trois assemblées. Interview dans la presse régionale avec peut-être les meilleurs extraits ce soir. On vous livrera ça évidemment. Et puis ce remaniement attendu dans les tout prochains jours. Catherine, on a des noms qui circulent. On a des noms qui circulent déjà depuis des semaines. Souvent, quand ça circule très très en amont comme ça, bah après on est surpris.
Oui, mais en tous les cas, il y a des noms qui circulent. Mais ce matin à 9h, le Premier ministre n'était pas fixé, ne savait rien sur son sort. Voyez, alors là, ce soir, il à 17h30, il participait à la réunion convoquée chez le président avec les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, qui doivent faire des propositions pour l'après, le nouveau souffle. Alors, le fait que le Premier ministre y soit, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire que le président veut l'associer à ce chemin que... Ou alors c'est juste une consultation? Je veux dire, ça signifie quoi, voyez? Donc on ne sait pas, et quand même, si remaniement, ça a de l'importance, c'est savoir ou non si Emmanuel Macron peut se passer d'un Premier ministre qui est plus populaire que lui. Ça s'est toujours fait. François Fillon était plus populaire que Nicolas Sarkozy pendant le quinquennat. Mais là, il a pris quand même une place particulière pendant la gestion du Covid. Il avait vraiment trouvé son ton, c'est devenu une marque, c'est même devenu dans beaucoup de gens l'idée qu'il est imprésidentiable, ce que n'était pas 2 ans avant la présidentielle François Fillon. Donc s'il se sépare de lui, alors que le président qui est moins... est-ce qu'il a raison ou non de se présenter? Mais je crois, des proches disent qu'il n'a pas encore pris sa décision.
Justement, sur ce point-là précisément, corrigez-moi si je me trompe, mais il doit être élu maire du Havre samedi.
Dimanche, précisément.
Dimanche. Voilà, dans 3 jours. Ouais. Donc ce serait étonnant qu'il ne soit pas fixé avant Jean-Rémy Baudot, Michel Cotta.
Moi, je ne crois pas qu'il ne soit pas fixé. Il y a tellement de forces internes maintenant... à la France en marche, à la République en marche ou au Modem, il y a tellement de forces styles à ce que Philippe reste, malgré, ou peut-être à cause d'ailleurs,
de
ses bons résultats. Il y a une telle opposition, je trouve, du côté des proches d'Emmanuel Macron, pour qu'il ne soit pas... Édouard Philippe est un animal politique... Il comprend les choses. Alors, peut-être qu'on ne lui a pas dit carrément, mais je pense qu'il est tout à fait au courant de cette opposition qui se manifeste à lui.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux choses qui se jouent là. Il y a à la fois la scénarisation de l'exécutif et de l'Élysée autour de la séquence qu'on est en train de vivre, avec effectivement les trois présidents des assemblées qui sont actuellement à l'Élysée, avec Édouard Philippe, vous avez raison Catherine. Il y a demain le Conseil des ministres, avec par ailleurs, entre-temps, une interview dans la presse régionale. Il y a des choses qui se jouent en coulisses, par exemple les négociations du Ségur, par exemple le budget rectificatif qui est actuellement à l'Assemblée, et qui empêche pour l'instant tout remaniement. Tant que ce n'est pas voté, on ne peut pas se permettre de débrancher les ministres. Donc il y a cette espèce de scénarisation que l'Élysée met en place. Et puis par ailleurs...
Qui n'est pas nouvelle, d'ailleurs, Jean-Rémy Baudot. Non. Il nous a habitué à ça, Emmanuel Macron.
Oui, mais là on est vraiment dans une séquence qui s'écrit, d'ailleurs qui était annoncée, je me souviens d'un proche conseiller du président, il y a 3 jours, qui m'expliquait déjà un peu cette séquence-là, me disant, voilà, et jusqu'à mercredi prochain, normalement, tout sera prêt pour mercredi prochain, sauf s'il y a, évidemment, disait-il, des retards, par exemple, dans les vérifications. Mais l'autre point que je voulais aborder avec vous, c'était, derrière tout ça, il y a la question du projet politique. Emmanuel Macron, il y a la question de son Premier ministre. A-t-il choisi ou pas? Je serais bien capable de vous le dire pour l'instant, on ne va pas s'avancer trop, mais ce qui est certain, c'est que c'est la question de quelle est sa place à lui, à Emmanuel Macron, dans le dispositif. S'il veut un Premier ministre fort, il peut garder Édouard Philippe. S'il veut un Premier ministre plutôt un exécutant avec un président superstar qu'il incarnerait à moins de deux ans d'une présidentielle pour être d'une certaine manière en campagne tout au long de la fin du quinquennat, il a plutôt intérêt à prendre un exécutant ou une exécutante.
C'est toute la question. Alors attendez, le rôle justement d'Edouard Philippe et la manière dont Emmanuel Macron veut entamer la dernière partie de son quinquennat, vous y allez mesdames dans une toute petite seconde les grandes voix.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Catherine et Michel Cotta et Jean-Rémy Baudeau du service politique.
Voilà, c'est la dernière ligne droite avant le remaniement du gouvernement, Catherine Ney. On se parlait évidemment, et Michel Cotta, on se parlait évidemment du sort d'Édouard Philippe. Michel, alors.
Non, je sais que dans les. Il a donc reçu, le président de la République a reçu 9 journalistes de la presse régionale. De province. Ouais. Les 9 journalistes n'ont pas obtenu de réponse, évidemment, sur la question que nous posions. En tout cas, c'est une interview dont on va avoir les extraits incessamment, mais qui est essentiellement économique et prospective. Mais il n'a pas dit grand-chose d'autre. Donc, ça n'est pas dans cette interview qu'on apprendra,
Qui est le premier ministre.
Et ce que je voulais ajouter, c'est que oui, c'est vrai que c'est dans un scénario, etc. Ouais. Mais moi, j'ai remarqué, et Catherine aussi sans doute, que quand les remaniements sont très longs, c'est toujours assez négatif.
Il n'en sort pas grand-chose.
Non, oui, c'est pas ça. C'est qu'à la fois, ça enlève l'énergie du Premier ministre qui attend, il faut se mettre à sa place. Dans les cabinets ministériels, je peux vous dire que les gens ne savent pas s'ils font leur caisse, s'ils ne font pas leur caisse, ou ils passent leurs vacances. C'est très mauvais. C'est mauvais parce que les ambitions s'affichent. Et on voit bien que les ambitions des uns et des autres s'affichent énormément. Et c'est après préjudiciable pour la suite. Et on voit enfin que les gens, d'abord, qui n'attachent pas une importance énorme au remaniement, ne retiennent que le fait de « Ah ben alors, on ne sait pas quoi. »
C'est ça.
On ne sait pas. Et alors, et c'est une telle ou c'est un tel dans tel ministère. Ah ben non, ce n'est pas possible. Je trouve que c'est toujours très nuisible. Ça avait duré assez longtemps sur Borloo. Et Fillon,
avec Nicolas Sarkozy,
de la part de Sarkozy,
pour conforter finalement François Fillon.
Et ça n'avait pas du tout arrangé François Fillon, et ça n'avait pas du tout, in fine, arrangé Borloo.
Et c'est même quand même très étonnant de la part d'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, de ne pas être plus prévoyant et de ne pas avoir une liste toute prête.
Mais justement, parce qu'il n'y a pas grand monde sur le banc de touche.
Le problème aujourd'hui, c'est que le problème des ressources humaines.
C'est ça.
Dans le fond. L'audace d'Emmanuel Macron, c'était d'avoir nommé Édouard Philippe quand il est arrivé. Et c'est vrai que pour lui, le Premier ministre rêvé, c'est le Édouard Philippe d'il y a 3 ans. C'est-à-dire qui était à la fois absolument détesté et rejeté par son ex-famille, puisqu'il l'avait quitté, les Républicains, et qui était inconnu de la nouvelle majorité, puisqu'il ne se connaissait pas les uns les autres, et qui est une sorte de monsieur Mister Nobody, un peu comme était d'ailleurs Fillon à un moment, alors que lui, il était de la famille. Mais enfin, bon. Et donc, il a mis longtemps à émerger. Mais donc, qui prenait la lumière? C'était essentiellement le président. Il a fait un débat où on ne parlait que de lui. Pendant les Gilets jaunes, le Premier ministre n'a pas existé. C'était Emmanuel Macron qui était à la manœuvre et ça lui allait très bien.
Donc ça plaide pour le scénario d'un Premier ministre un peu plus faible et un président qui brillerait le temps d'une campagne.
Mais c'est pas qu'il soit trop faible.
Oui, c'est ça. Voilà,
qu'il soit pas trop faible et qui va faire regretter. Parce qu'on comparera toujours quand il va parler, quand il va arriver. On dira, ben alors là, c'est pas aux questions d'actualité. Parce qu'il faut du temps pour devenir Premier ministre.
Il faut du temps pour devenir Édouard Philippe.
Oui, en tous les cas, pour Édouard Philippe. Et donc, ça sera au détriment. On dira, mais pourquoi est-ce qu'il s'en est séparé? Pourquoi c'est très, très difficile. Et puis en plus, il faut bien voir que l'équipe gouvernementale, il y a beaucoup de ministres, de grands ministres qui sont usés, qui devraient être remplacés. Eh bien, il faut faire un casting. C'est difficile. Il faut penser à la parité. Et déjà, un casting, il faut avoir l'accord des gens sur le ministère auquel on est prêt, enfin qu'on veut leur confier. Après, il y a l'enquête de la haute autorité pour savoir
vous avez raison, Michel, c'est que ça prend du temps et ça casse un peu l'énergie du remaniement.
Ça casse l'énergie et en plus, aujourd'hui, les préfets le disent, depuis un mois, il n'y a plus aucune décision, on n'a plus jamais aucune réponse sur rien.
Dans les ministères,
donc
tout
le pays est un peu à l'arrêt.
Ceci étant, il y a quand même un grand problème politique derrière tout ça. On a vu Emmanuel Macron l'autre jour se rapprocher des 150 personnalités tout en refusant trois grosses propositions, mais enfin faire vraiment de l'écologie plus écologique d'humeur. Bon. Et à la fois, si vraiment il faut travailler plus, travailler davantage, produire plus, alors on n'est pas du tout du côté de certains écologistes. Pas de tous, mais on n'est pas à côté des ayatollahs de l'écologie. Et donc, il faudra choisir. Il voulait prendre des grands-mères, par exemple, dans son gouvernement. Mais il ne va pas prendre le maire de Bordeaux ou le maire de Lyon. Ou, ça va être très compliqué. Ouais. Donc, je trouve que les élections ont quand même, et la victoire des écolos, ont quand même sans doute justifié une réflexion supplémentaire, même c'est si c'est mauvais pour
c'est,
tout le
c'est
monde.
Peut-être effectivement Jean-Rémy Bodoz qui fait tarder parce que le résultat de ces municipales et évidemment la couleur que doit prendre cette troisième partie du quinquennat, ce troisième acte, évidemment n'est pas tellement en cohérence avec la marque Édouard Philippe.
Non, ça pose la question. Et en même temps, quand on discute avec l'entourage d'Édouard Philippe, cette semaine je l'ai fait, ses très proches conseillers, ses amis, ils disent qu'Édouard Philippe il pourrait s'adapter. C'est quelqu'un de très politique, Édouard Philippe, politique dans le sens où il est capable de porter des mesures, parfois d'ailleurs, qu'il ne valide pas totalement, mais il est dans un dispositif et il le fait. Alors parfois, on a bien vu ces derniers mois que l'Élysée demandait quelque chose et puis que Matignon le mettait un petit peu à sa sauce et qu'à la fin, ça perdait un peu de saveur, en tout cas la saveur que l'Élysée aurait souhaité. Mais c'est vrai qu'il y a la question de l'incarnation. Est-ce que Édouard Philippe est le mieux placé pour incarner un virage plutôt écologique? Tout à l'heure, Nicolas Hulot, ce matin, il était chez un de nos confrères de la radio et on lui demandait s'il serait intéressant qu'il y ait des écologistes au gouvernement. Il disait ça aurait de la gueule, d'accord, mais enfin, il faut porter un projet quand même.
Pascal Canfin qui a fermé la porte, d'ailleurs.
Ça n'a pas tellement bien réussi.
Non, par ailleurs.
Et Pascal Canfin qui était cité, pour l'instant, dit non. Hein. Donc on verra.
Oui,
pour
l'instant,
le jeu des entourages.
Et puis les écologistes, maintenant, dans la plupart des endroits, ils sont à la tête d'une coalition de gauche. Au fond, les socialistes ont disparu, les insoumis aussi un peu se sont rangés derrière eux. Alors je ne dis pas que tous les écologistes sont à gauche. D'ailleurs, on sait que Jadot l'est bien beaucoup sûr. Moins que d'autres. Mais enfin, c'est difficile d'appeler au gouvernement quelqu'un qui est dans l'opposition.
Oui, mais on sait très bien qu'avec les Verts, le président Macron n'en fera jamais assez. C'est comme ça. Bon. Et à la fois, tous les Français sont pour les espaces verts, plus d'écologie, mais ils sont contre les taxes. Vous voyez bon. Et quand on voit le score à la présidentielle de Jadot, il est à 8%. Vous voyez, tout ça, si vous mélangez tout ça, vous voyez, quelle politique faites-vous? Mais en tous les cas, moi, j'ai regardé le Premier ministre qui était assis avec les 150 personnes qui ont fait les propositions. Et on sentait, je ne sais pas si c'était la fatigue de la veille de son élection et tout ça, il était ailleurs, il regardait en l'air pour dire... C'est pas possible, vous voyez. Donc, alors, s'il reste Premier ministre, que va-t-il accepter, mettre en musique, jusqu'où il ira? En tous les cas, il y a une chose aussi qui se disait beaucoup ces derniers temps, c'est qu'il avait auprès de lui un directeur de cabinet qui était trop directif, trop adroit, et qu'il faudrait qu'il s'en sépare. Donc, si le président exigeait...
On n'a pas besoin de faire un remaniement pour virer un directeur de cabinet.
Si le président exigeait d'Édouard Philippe la condition... qu'il reste à Matignon et qu'il se sépare de Ribadou Dima, là, je peux dire que le Premier ministre ne resterait pas.
Ah oui, exactement, puisqu'il l'avait déjà imposé. Exactement, la fidélité d'Edouard Philippe, leur grande proximité.
Il faut se rappeler que lorsque le Premier ministre a été nommé, il a voulu Ribadou Dima à côté de lui, et qu'on lui a dit non, et qu'il a dit c'est ça ou rien.
Bon. Exactement.
Et moi, je ne le vois pas, puisqu'on le dit plus rigide que ça apparaît.
Les Français ne connaissent pas Ribadeau Dumas, mais il y a eu un très grand papier dans Le Point il y a à peu près un mois de ça, effectivement, pour expliquer les atouts, mais aussi parfois les faiblesses de Ribadeau Dumas.
Exactement.
On se retrouve dans un instant, justement, on parlait des Verts. On va Bateau, Hulot, Segault. Hein, ils redonnent tous de la voix là, en ce moment, plus que jamais. On en parle dans une seconde.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix autour de Nathalie Lévy jusqu'à 19h.
Et la bataille de 2022, de plus en plus, ils y pensent, elles y pensent aussi. À l'aune des résultats de ces municipales, les Verts en force avec une Ségolène Royal qui revient toujours.
C'est un secret pour personne. J'ai dit que si... le moment venu, on était capable de se rassembler. Je serais prête à mener cette bataille et ce combat.
Et voilà, elle se dit une nouvelle fois prête pour cette bataille de 2022, Ségolène Royal, Catherine Ney, sans surprise.
Mais faire don de sa personne à la France, mais oui, c'est pas à chaque fois. De toute façon, elle est prête à entrer au gouvernement, elle est prête à tout. Mais ce qui est extraordinaire, et là, elle est bien la fille de Mitterrand, enfin la fille
spirituelle.
C'est que quand elle est au gouvernement, elle soutient le gouvernement, et dès que si elle ne l'est pas, elle est dans une opposition farouche. Elle peut changer d'un mot. Voilà. Et elle est comme ça, Ségolène. Mais vous voyez, on peut l'admirer parce que Elle est infatigable, ouais. Elle a toujours envie, elle veut toujours arriver, et à la fois, qu'est-ce qu'elle est fatigante. Vous voyez, on se dit encore, mais... Et alors, elle a un bilan qui, comme ministre de l'écologie, c'est quand même elle qui a renoncé à la taxe carbone en disant...
L'éco-taxe,
un milliard d'euros, vous voyez. Comme présidente de la région Poitou-Charentes, elle a laissé des ardoises formidables qui ont été dénoncées par Alain Rousset, qui a repris la région et tout ça. Donc, elle a un bilan qui est critiquable, mais qu'elle défend avec acharnement, et elle a jamais tort sur rien. Donc, c'est sa grande force. Elle a une audace extraordinaire, un culot formidable. Et moi, ce que j'admire, c'est d'en avoir toujours envie, toujours prête.
Ah oui. Rien ne l'arrête, Michel Cotta.
Je vais vous dire, moi, au début, je faisais partie des gens qui, la première fois qu'elle a dit qu'elle voulait être candidate à la présidence de la République, on était d'ailleurs ensemble, Catherine, on s'est marré, en disant vraiment, il n'y a pas d'autre mot, en disant vraiment. Alors, bon. Et puis elle y est allée.
Et oui.
Voilà. Alors, elle bénéficie effectivement d'une conjoncture pas mal, qui est l'éclatement de la gauche. Donc elle peut toujours, à tout moment, bon, si les écologistes n'y prétendent pas à conduire ce rassemblement. Mais effectivement, elle voit personne au Parti Socialiste. Elle se dit que les insoumis sont quand même pas dans une vague portant et surtout pas Jean-Luc Mélenchon. Donc elle se dit, après tout, pourquoi pas
la nature ayant horreur du vide.
Et comme dit Catherine, comme elle ne doute de rien, et pas d'elle-même. En plus, on sait que François Hollande, à un moment donné, aurait pu penser éventuellement, ou Bernard Cazeneuve, mais ça ne doit pas lui faire tellement de peine à Ségolène de montrer qu'elle est encore à leur niveau et même,
oui, c'est ça.
Et même au-dessus.
Mais est-ce que c'est pas quand même une erreur de lecture Est-ce que c'est pas une erreur de lecture politique de sa part de penser qu'elle peut rassembler Elle dit, elle promet une candidature socialiste pour rassembler la gauche. Mais est-ce que politiquement, est-ce qu'elle loupe pas un train? C'est-à-dire que là, on se dirige de plus en plus vers une candidature écologiste qui rassemble la gauche et non pas l'inverse.
Oui, mais elle peut dire, mais moi, j'étais ministre de l'écologie en faisant oublier l'éco-taxe.
Fessenheim, elle a promis de faire quelque chose sur Fessenheim. Elle n'a jamais mis les pieds une seule fois à Fessenheim, elle a promis une usine Tesla sur place. Évidemment, tout le monde l'attend encore. Et quand vous parliez de son audace, là, je regarde encore une vidéo qu'elle a postée ces derniers jours sur son compte Twitter. Elle dit, par exemple, elle fustige le gouvernement en disant sur la question du Ségur et des soignants. Je vous cite, il faut 24 heures pour régler le problème des rémunérations des personnels soignants. Enfin bon, ça saurait si la question de l'hôpital pouvait se régler en 24 heures. Aucun écologiste n'a gagné sans union de la gauche. Enfin, Strasbourg, ils ont gagné même avec un front anti-gauche et les socialistes qui n'allaient pas derrière eux. Donc elle s'arrange quand même fréquemment avec la question de la vérité.
Elle dit aussi qu'elle n'est pas dans un itinéraire personnel.
Mais justement, si elle le dit maintenant, là, précisément après la victoire des écologistes, c'est pour dire. Après tout le monde est. Moi, je suis compatible avec les écolos et les écolos sont compatibles.
Oui, mais
avec
il y a des nouveaux visages qui sont venus avec ces votes écologistes. Il y a des nouveaux visages. Prenez Lyon, prenez.
Oui, mais
prenez
des nouveaux visages aujourd'hui qui parlent comme puis, Ségolène Royal, Catherine May, des nouveaux visages.
Elle parle à qui, Ségolène Royal? Elle parle aux médias, franchement. Elle parle pas, franchement, au-delà des médias.
Elle parle aux médias, mais en espérant que les Verts écoutent les médias. Parce que les nouveaux maires qui viennent d'arriver, qui promettent de ne faire des villes que piétonnières, sans voiture, attendez, il faut les laisser s'installer, on va voir comment ils vont réussir, si la population va les suivre, vous savez.
Quand on dit qu'il y a un nouveau monde, il y a aussi un nouveau monde pour les femmes. Quoi. Sauf qu'il y a dans le groupe En Marche des femmes qui sont vraiment... même, je trouve, plus mature, plus prête à parler,
plus intéressante que
beaucoup d'hommes.
C'est vrai
que c'est un vivier plutôt féminin.
Non, mais où elle est formidable, c'est Ségolène Royal, c'est que lorsque la Commission européenne en cherchait un candidat après l'échec de Madame... rappelez-moi son nom, la mini... Enfin,
Loiseau.
Non, à la Commission européenne.
Ah, oui.
Enfin bref.
Ça nous reviendra.
Sylvie Goulard, eh bien, elle était candidate. Elle a fait de candidature, elle était prête à aller à la Commission européenne. C'est-à-dire, dès qu'elle entend un mot, candidate à tout.
Voilà, elle est candidate à tout.
Tout est bon à prendre, mais est-ce qu'elle est efficace derrière? Demandez aux pôles ce qu'ils en pensent.
Voilà, on s'en souvient. Ils s'en souviennent aussi. Merci beaucoup, Catherine Ney, Michel Cotta, Jean-Rémy Baudeau. À demain, les grandes voix, 18h30.
À suivre, Nathalie Lévy.
À suivre, c'est un journal complet, celui de Sébastien Krebs, le journal de 19h. L'Union européenne qui tape du poing sur la table et demande aux voyagistes de rembourser en espèces même les touristes dont les séjours sont annulés. Europe 1.
jusqu'à 20h sur Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et la suite du programme, Nathalie.
Après 19h, on regarde vers demain, la fin de l'école pour des millions d'enfants et le coup d'envoi des grandes vacances. On fait le bilan ce soir de cette année scolaire si particulière avec mon invité Rodrigo Arenas, co-président de la Fédération des parents d'élèves. On zoomera particulièrement sur ces deux semaines de cours qui ont clôturé cette année. À 19h30, on se projette dans le monde de demain. Économie, travail, conso, vie quotidienne. Les Français sont prêts à tout changer. C'est ce que révèle une étude IFOP pour la Tribune. On vous la dévoile ce soir sur Europe 1 et on attend aussi vos réactions. 3921, hashtag Europe 1.
Votre grand journal du soir, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
De la criminalité organisée à cette échelle, impliquant autant de personnes, c'est véritablement la première fois.
L'aboutissement d'une enquête hors norme, les gendarmes français sont parvenus à démanteler un réseau mondial de communication cryptée utilisé par la grande criminalité.
Vacances annulées, vacances remboursées, c'est la règle. Même pour les offres tout compris, la Commission européenne adresse un rappel à l'ordre.
Dans ce journal aussi, le choc chez Airbus face à l'ampleur du plan social et la guerre entre taxis et VTC relancée par la crise. Ce sera demain en France.
Demain, les conseils municipaux élus dimanche dernier commenceront à désigner leur maire. Et à Saint-Denis, une page se tourne, la banlieue rouge n'est plus communiste.
Demain dans le monde, la basilique Sainte-Sophie va-t-elle devenir une mosquée? C'est le projet de la Turquie. Enfin, de la musique classique devant un public. Un concert pour les Restos du Cœur.
Et le ciel d'Anissa?
Un peu plus clair demain, ce ciel. Les nuages vont se disperser dans la journée pour laisser place à un soleil assez généreux. Attention tout de même sur la Côte d'Azur, encore pas mal d'orages demain. Des températures en dessous des normales de saison. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
L'Union européenne tape donc à nouveau du poing sur la table sur les voyages annulés à cause de l'épidémie. Oui, la règle, c'est bien le remboursement. La Commission européenne met en demeure 10 pays, dont la France, de faire appliquer cette politique. Les compagnies aériennes avaient déjà été rappelées à l'ordre. Cette fois, Isabelle Horry, ça concerne les packages, les offres, tout compris, vol plus hôtel, etc.
Et oui, parce que depuis l'épidémie de coronavirus, la France autorise les voyagistes à ne pas rembourser tout de suite ces prestations quand elles sont annulées. À la place, les consommateurs peuvent se voir imposer un bon d'achat remboursable dans un an et demi seulement. Or ça, dit Bruxelles, c'est contraire au droit européen. Je vais être précise pour ceux qui nous écoutent et qui seraient concernés. C'est contraire à la directive européenne de 2015 sur les voyages à forfait. La France doit respecter cette loi européenne. Elle prévoit expressément que le voyageur concerné a le droit d'opter pour un remboursement intégral. Même si c'est seulement l'avion qui est annulé, le voyagiste doit rembourser aussi l'hôtel. Le gouvernement a suspendu l'application de ce texte jusqu'à septembre. Il explique qu'il s'agit de préserver de la faillite de nombreux professionnels du tourisme. Mais les plaintes affluent dans les associations de consommateurs. Ce soir, l'UFC Que Choisir se réjouit d'ailleurs de l'ouverture de la procédure d'infraction contre la France. Ceci dit, attention, ça ne change rien dans l'immédiat. À ce stade, c'est un moyen de pression. On va voir comment le gouvernement réagit. À terme, il risque une plainte devant la Cour de justice européenne.
Les précisions d'Isabelle Horry depuis Bruxelles pour Europe 1.
La France et l'Allemagne peuvent sauver jusqu'à 3500 emplois. C'est l'appel du président Airbus ce soir. Il en appelle aux aides d'État.
En France, 5000 suppressions ont été annoncées. Les détails du plan ont été dévoilés et les différents sites installés à Toulouse et dans ses environs sont particulièrement touchés. Au-delà de l'impact de la crise sanitaire, les syndicats craignent une restructuration du groupe. Écoutez Florent Felici de la CFTC.
Pour nous, le Covid, c'est une crise conjoncturelle. On nous parle, alors c'est la direction qui nous en parle, hein, de la reprise du trafic aérien entre 2023 et 2025. On a quand même le gouvernement qui met des mesures à disposition pour par exemple du chômage partiel longue durée sur deux ans, donc 2021-2022. Nous, ça nous va bien ce genre de mesures parce que ça peut nous permettre de garder les compétences en interne, de garder les salariés pour affronter cette crise qui est conjoncturelle. C'est vrai qu'on a du mal avec ces volumes de chiffres à se dire que ce n'est pas structurel derrière. Surtout qu'on a fait des efforts récemment en termes de compétitivité. On a revu les horaires de travail, on a revu la rentabilité des salariés sur les secteurs d'activité pour justement avoir cette charge de travail et l'avoir en France et à Toulouse. Donc c'est quand même des sujets sur lesquels nous, salariés et syndicats, on va de l'avant et on fait des efforts. Et à aujourd'hui, avec autant de suppressions d'emplois, on est un peu embêté avec tout ça quand même.
Un propos recueilli par Benjamin Péter à Toulouse.
L'heure de demain en France. Bonsoir Jean-Pierre Montané.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
La crise qui touche aussi le secteur des taxis et des chauffeurs VTC et ses difficultés, eh bien elle relance la guerre entre les deux.
Oui, je bosse 11 heures par jour, 6 jours sur 7 et je gagne à peine 50% de mon chiffre d'affaires habituel. Se lamente Milan Dejanovic, chauffeur de taxi mais aussi fondateur du syndicat Lutte qui s'occupe de ces chauffeurs qui louent leurs voitures, les plus précaires donc. Même fébrilité chez les chauffeurs chauffeurs de VTC dont les recettes ont aussi beaucoup de mal à remonter. Frontières fermées au tourisme, plus télétravail, plus peur du virus, égale sérieuse pénurie de clients, une concurrence exacerbée donc, et une rivalité réveillée entre taxis classiques et VTC, type Uber ou Captain, chaque camp dégainant ses revendications.
Alors que réclament-ils les uns et les autres ?
Eh bien les taxis exigent l'application de la loi qui dit par exemple que eux seuls peuvent pratiquer la maraude électronique, c'est-à-dire prendre un client à la volée qui hèle une voiture. Ils souhaitent aussi une accélération de la distribution des licences. 400 créés en 2019 seraient toujours en souffrance. Enfin, les taxis exigent à la fois la suppression des forfaits, hein, ce fameux prix fixe pour les courses vers les aéroports par exemple, et la baisse de la TVA de 10 à 5,5%, histoire de rendre plus attractives les courses. Côté VTC, j'ai parlé avec Jean-Claude Régnier, vice-président de l'Association des VTC de France. Lui, il milite pour une tarification minimale, pas de course à moins de 12 euros, et pour mettre un terme à cette foire tarifaire mise en place par les différentes plateformes. Il trouve aussi qu'il y a trop de chauffeurs en cette période creuse, donc pour lui, deux solutions. D'un côté, exhorter les autorités à faire le ménage pour débarrasser le bitume des faux VTC. Il y en aurait 10 000 rien que chez Captain. Et de l'autre, exiger un gel des cartes VTC pour limiter leur nombre. Enfin, il est très remonté contre Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui interdit aux VTC l'accès de la rue de Rivoli, axe stratégique pour traverser Paris. Elle veut nous tuer, m'a-t-il dit.
Merci beaucoup Jean-Pierre Montané. Cette bataille VTC taxi donc relancée. À demain Jean-Pierre.
À demain.
Demain, Emmanuel Macron doit donner les premières grandes lignes de son projet pour l'après-crise. Quelle feuille de route pour les deux ans à venir ? Le chef de l'État a donné une interview qui paraîtra dans la presse régionale. Ce sera le départ d'une séquence qui sera marquée dans les jours qui viennent par un remaniement du gouvernement. Aujourd'hui, il a achevé une série de consultations. Il recevait à l'Élysée les présidents des trois assemblées.
Et après les municipales de dimanche dernier, il est temps pour les conseillers municipaux de désigner leur maire. Ça commence demain dans toutes les villes de France.
Alors à Marseille, on en parlait à 18h, gros suspense, le conseil municipal a lieu samedi. La droite tente de jouer l'unité, mais un deuxième candidat LR s'annonce ce soir. On va donc continuer de suivre ce feuilleton. Et puis en Seine-Saint-Denis, c'est une page qui va se tourner. Plusieurs villes de banlieue dirigées depuis des décennies par des maires communistes ont changé de couleur. Un maire centriste va par exemple diriger Aubervilliers. La droite s'installe à Champigny-sur-Marne. Et à Saint-Denis, banlieue rouge depuis la Libération, eh bien c'est un maire socialiste qui a été élu. Reportage de Roman Oquet.
Ils ont fait leur temps et ils n'ont rien fait pour que ça évolue. Ben maintenant, on a besoin de changement.
Après 30 ans de communisme, le sentiment d'insécurité a fait basculer le vote de Sophie qui dévisage les groupes de jeunes au pied de la basilique.
C'est horrible. C'est Saint-Denis, quoi. C'est la zone, au fait. Vous n'êtes pas en sécurité. Même pour boire un café, il faut choisir vraiment le café, quoi.
Sophie s'installe à la terrasse de Samir. En 2014, déjà, le commerçant avait hésité à voter communiste. Le maire n'avait eu que 200 voix d'avance. C'était leur dernière chance, jure Samir, excédé par les déchets sur son trottoir.
Prends le balai le matin, prends le balai le soir, ils passent même pas. Ils cherchent que l'argent entre eux et ils mangent entre eux.
Avant, c'était pas comme ça.
À demi-mot, Samir évoque un système tombé, selon lui, dans le clientélisme. Normal, après 76 ans de règne, renchérit Francis. Il travaille pour l'un des bailleurs sociaux de la ville et il accuse.
Des appartements, certaines personnes mettent 3 mois pour les obtenir. En 48 heures, on est capable de loger quelqu'un parce qu'il est reconnu, connu. La démocratie, c'est pas ça.
Devant la permanence du PCF, les militants passent un dernier coup de balai. Dans un coin, les affiches écornées s'empilent en attendant d'être jetées.
Le reportage de Roman Oquet à Saint-Denis pour Europe 1.
La compagnie de sécurisation et d'intervention CSI de Seine-Saint-Denis va être dissoute. Hein. On vous en parle depuis 48 heures. Confirmation ce soir du préfet de police de Paris après la mise en examen de 4 de ses agents.
Et l'un pour violence et détention de stupéfiants, les autres pour faux et usage de faux en écriture. Et puis on l'apprend ce soir, le parquet de Versailles demande un procès pour Karim Benzema. C'est l'affaire de la sextape avec laquelle il est accusé d'avoir contribué à faire chanter son camarade chez les Bleus, Mathieu Valbuena.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Dévy.
Et à suivre dans cette édition de 19h, cette enquête hors norme menée notamment par des gendarmes français. Ils ont en fait décodé les communications d'un réseau crypté utilisé par la grande criminalité.
Et puis demain dans le monde, à Istanbul, Sainte-Sophie va-t-elle devenir une mosquée ? Europe 1.
19h10 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Et c'est une enquête hors norme qu'ont mené les autorités françaises et néerlandaises. Un gigantesque réseau mondial de communication cryptée a été démantelé.
Oui, il était utilisé quasiment exclusivement par des criminels, Salomé Legrand. Et non seulement ce réseau EncroChat a été démantelé, mais surtout les enquêteurs ont réussi à l'infiltrer.
Et oui, et comme les délinquants ne se doutaient de rien, les policiers ont carrément eu l'impression d'être à leur table, dit l'un d'entre eux. Cette infiltration hors norme a débuté après que la gendarmerie française a décidé de s'intéresser à ces téléphones ultra sécurisés avec double système d'exploitation, pas de géolocalisation possible, autodestruction des messages au bout d'un certain temps ou à distance. Une équipe commune d'enquête européenne a été créée pour exploiter les données de tous ces gros bonnets du crime organisé. Le général Jean-Philippe Lecouf est directeur adjoint de la police judiciaire de la gendarmerie.
À cette échelle, impliquant autant de personnes, c'est véritablement la première fois. On a une vision du segment supérieur de la criminalité organisée, de la façon dont ils travaillent, de la façon dont ils communiquent entre eux, de façon extrêmement claire, puisqu'ils avaient une confiance aveugle dans ces téléphones. Un petit peu comme si on était dans une énorme réunion de criminels qui se parlent entre eux et où on est un petit peu invisible au milieu.
Et quelques 50 000 de ces téléphones étaient en circulation au moment où le réseau s'est rendu compte de l'infiltration le 13 juin dernier. Plus de 100 millions de messages ont quand même été interceptés et vont nourrir des centaines de procédures judiciaires dans le monde entier.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
L'actualité à l'étranger maintenant, c'est le Brésil qui se déconfine.
Rio de Janeiro ouvre ses restaurants, ses bars, ses salles de sport. Certains experts estiment que c'est assez prématuré. Le Brésil a déjà dépassé les 60 000 morts. Aux États-Unis, Donald Trump jubile face au rebond des créations d'emplois, près de 5 millions au mois de juin, un record notamment grâce là aussi au déconfinement et à la réouverture des commerces.
Et puis la Turquie qui provoque à nouveau de vives réactions en Occident.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan veut transformer en mosquée la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
C'est notre Demain dans le Monde ce soir. Aujourd'hui, là, cette basilique, c'est un musée inscrit à l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'humanité.
Oui, elle l'est en fait depuis 1935 par décision du président Kemal Atatürk, donc vous savez, le grand dirigeant laïque de la Turquie, un geste politique fort qu'il avait voulu pour s'ouvrir à l'Occident. Et c'est bien ça qui pose problème aujourd'hui au président islamiste Recep Erdogan, qui est au pouvoir maintenant depuis 17 ans. Et donc, il cherche à remobiliser sa base électorale, qui est à la fois nationaliste, conservatrice et religieuse, avec une politique très agressive à l'égard de l'Occident et tout particulièrement à l'égard de l'Europe. Et donc, transformer Sainte-Catherine en mosquée, ben pour lui, c'est un symbole idéal.
Et évidemment, il y met toute son énergie. Il travaille depuis plusieurs mois même.
Oui, par petites touches. Au mois de mai dernier, par exemple, il avait, pour l'anniversaire de la prise de Constantinople, organisé une récitation de prières retransmise à la télévision, une initiative effectivement très polémique, qu'il a justifiée en ces termes.
Sainte-Sophie n'a pas été détruite au nom de l'hostilité religieuse. Elle a été préservée dans toute sa splendeur pour servir les musulmans par droit de conquête.
Et voilà, et les mots sont intéressants car c'est clair pour tous les Turcs, il fait directement référence au sultan Mehmed II, dit le conquérant, le vainqueur de Byzance qui a abattu les murailles de Constantinople à l'âge de 21 ans et transformé sa basilique millénaire en mosquée. C'est à lui que le président Erdogan voudrait qu'on le compare. C'est le modèle qu'il propose à la Turquie, le rétablissement d'un empire néo-ottoman dominateur unifiant les frères musulmans. Et c'est ce qui oriente aujourd'hui sa politique étrangère. On le voit en Syrie, on le voit en Libye, ou bien sûr la question des réfugiés. Une stratégie de chantage systématique, voire même de confrontation avec les Européens.
Merci beaucoup Didier François. Et ça se joue en partie devant la justice, puisque le Conseil d'État turc a examiné aujourd'hui une requête qui a été formulée par plusieurs associations. On connaîtra la décision d'ici une quinzaine de jours.
Merci beaucoup Didier François, merci Sébastien. Un peu de musique quand même.
Ah bah.
Eh ben oui,
ah
un oui. Concert face à un public, ça c'est nouveau. La musique classique qui recommence à se jouer et à se vivre en chair et en os. Fini les expérimentations en visioconférence. Des musiciens de l'Opéra de Lorraine ont joué cet après-midi, mais pas pour leur public habituel. Ils ont joué face à des bénéficiaires des Restos du Cœur à l'Axou du côté de Nancy. Arthur Hendachet.
La musique, en vrai, à nouveau le plaisir de s'accorder, de se retrouver, les deux violons, l'alto, le violoncelle. Quatuor du compositeur russe Alexandre Borodine, ce sont des musiciens de l'Opéra de Lorraine, mais pas à l'Opéra. Ici, les Restos du Cœur où Christelle est bénévole.
Ça donne des frissons, ça passe dans le corps.
Jauge limitée à 30 personnes, dont Alain bénéficiaire des Restos.
Je trouve remarquable que des personnes de cette qualité se déplacent dans des endroits comme ici pour des bénéficiaires qui souvent n'en ont jamais entendu parler. Il y a deux ans, il y avait Aïda qui est passée au c'était pas dans mes, et c'est toujours pas dans mes cordes. Donc quand on en bénéficie de manière gracieuse, ben, c'est très bien.
Je pense qu'on en a besoin tous aujourd'hui.
Fédoua Beyoud de l'Opéra de Lorraine.
Enfin, voilà, on sort d'une période assez lourde et en plus eux ont des priorités qui sont aussi essentielles, hein, tout simplement. Et là, ça nous fait du bien tous.
Y compris aux musiciens eux-mêmes, commentaire de l'altiste du Quatuor, c'est quand même plus chouette que les concerts par Skype. Nancy, Arthur Mbaché, Europe 1.
Ah oui, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil que derrière l'écran.
Merci beaucoup, Sébastien. À tout à l'heure. Avec peut-être d'autres titres à 19h30. Anissa, pendant ce temps, encore quelques orages ?
Oui, alors beaucoup moins important, bien sûr, que la nuit dernière. Mais les orages de demain seront principalement sur les Alpes du Sud, le relief Corse. Et dans l'après-midi, ils arrivent sur la Côte d'Azur avec des averses, donc accompagnées de coups de tonnerre et parfois même de grêle. Partout ailleurs, la journée commence avec quelques grisailles sur les régions au nord de la Loire. Dans l'après-midi, ces grisailles se dissipe, le soleil domine malgré quelques passages nuageux. Bon, c'est une journée bien plus calme que ces derniers jours. Dans le sud, c'est du grand et beau soleil, mais attention, le Mistral se lève et vous le savez, il peut rafraîchir l'atmosphère et il soufflera en rafale jusqu'à 90 km/h. Les températures, le matin, c'est plutôt agréable avec 9 à 15 degrés. Nous aurons 10 à Limoges et Charleville-Mézières, 12 à Nantes et Strasbourg, 14 à Lille, Paris et Bordeaux, 18 à Marseille et déjà 22 degrés à Nice. Et puis dans l'après-midi, il fait frais. Encore au nord avec 18 à 19 degrés en bord de Manche, 20 à 25 degrés sur l'ensemble du pays, on aura 25 à Paris et jusqu'à 30 degrés sur le pourtour méditerranéen.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy avec l'interview de demain dans un instant.
Et oui, demain c'est la fin de l'année scolaire, le coup d'envoi des grandes vacances pour nos enfants, ça y est, on y est, on fait le bilan ce soir de cette année si particulière avec mon invité Rodrigo Arenas, coprésident de la Fédération des parents d'élèves.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et à 19h20, on se tourne vers demain. Demain, c'est la fin de l'école, alors quel bilan tirer de cette année si particulière? Avec vous pour en parler, Rodrigo Arenas, coprésident de la Fédération des conseils des parents d'élèves.
Bonsoir Rodrigo Arenas.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio Europe 1, on s'est souvent parlé pendant cette crise sanitaire, mais oui. Par téléphone cette fois, vous êtes là parce que les enfants aussi ont retrouvé le chemin des classes, oui. Depuis le 22 juin, le président Emmanuel Macron avait fait l'annonce le 14, et vous vous disiez sceptique hein, quant à sa réalisation. À cette heure-ci, à la veille hein, de la fermeture et de l'acquis pour les enfants, quel est votre bilan de ces deux semaines de reprise de cours?
Ben dans les deux semaines qu'on vient voir, on a bien vu que dans la relation déjà entre les enseignants et les parents, ça a énormément changé. D'abord parce que les parents ont compris enfin qu'enseignant, c'est un métier. Et dans les enseignants, je pense qu'ils ont compris aussi qu'ils avaient besoin des parents pour pouvoir faire en sorte que les enfants soient bien, d'être accueillis, qu'ils soient heureux d'aller à l'école. Il nous semble que les enfants, d'une façon très générale, voire assez unanime, sont très contents de retourner à l'école parce que la resociabilisation était une priorité, de retrouver leurs camarades de classe et aussi leurs enseignants qui ont su tisser des liens d'affection très forts avec eux, finalement a été la grande victoire de ce confinement, c'est-à-dire le lien d'affection, le lien d'amour, parce que l'école est avant tout une histoire d'amour entre la République, j'ai envie de dire, dont les enseignants sont les principaux représentants au niveau de nos enfants, et eux-mêmes.
Donc c'est un satisfecit, parce que vous doutiez, vous étiez très sceptique quant à ce retour à l'école, là vous dites finalement ça a fonctionné. En plus, on a quoi ? On a pratiquement 98% des enfants qui sont retournés dans les classes. Hein.
Ce qu'on doutait surtout, c'était une réalité au tout début du retour à l'école, c'était les parents qui n'avaient pas confiance dans les conditions sanitaires. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre le discours des scientifiques, notamment du conseil scientifique et celui des décideurs, il y avait un réel hiatus en fait, qui était de nature à inquiéter les parents. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des parents qui nous disent qu'ils sont inquiets notamment du reconfinement. On pense à Lisbonne, on pense à la Chine, on pense aux États-Unis aujourd'hui, qui mettent beaucoup d'incertitudes, notamment sur la rentrée de septembre. Rentrée de septembre qui, au moment où nous parlons, nous ne savons toujours pas comment elle va s'effectuer, nous ne savons pas comment est-ce que la France fera face si on doit reconfiner l'école.
C'est pour ça aussi que ce test des deux semaines, finalement, je parle de test, ces deux semaines-là, était une manière aussi de tester, effectivement, de voir comment on pouvait imaginer la rentrée. Vous ne me le dites pas, hein, vous ne me dites pas que c'est insatisfaisant à aucun moment, vous me dites qu'il y a eu des bonnes choses, mais vous ne me dites pas, oui, c'est vrai, ces deux semaines, elles sont vraiment utiles, c'est bien, heureusement qu'on l'a fait.
Non, parce que depuis le début, nous avons dit que, d'ailleurs, que les enfants devaient retourner à l'école. Simplement, le hiatus que nous avions avec, et nous l'avons toujours d'ailleurs, parce que pour le coup, ça, c'est pas insatisfaisant. félicite, il ne s'agit pas d'être heureux ou pas heureux. C'est ce que nous disions à la FCPE, c'est que ce n'était pas la rescolarisation qui prenait, c'était la resociabilisation. Mmh. Et c'était ça la priorité. Mmh. La priorité, c'était de redonner que les grandes lettres de noblesse au fait que l'école est une aventure humaine. Mmh. Et qu'on ne pouvait pas dire on reprend l'école, on refait le français, les maths, etc. Comme si, c'est ça aujourd'hui que nous disions non seulement nous doutions, mais en plus ce n'aurait pas été efficace. Et ça aurait été aussi demander aux enseignants de faire quelque chose qu'ils n'étaient pas en mesure de faire. Comment est-ce que, par exemple, on peut apprendre le français à un enfant qui a vécu le confinement dans des conditions difficiles.
Bien entendu. Savez-vous combien de parents ont pu retourner sur leur lieu de travail grâce à la réouverture des écoles?
Alors normalement, les parents sont tous retournés sur leur lieu de travail. D'abord parce que ceux qui restaient à la maison sont passés au chômage partiel, même quand les écoles étaient fermées. Ça a été d'ailleurs une des principales remontrances que nous avons fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux parents de garder les enfants, même si nous avons notre job de parents, on garde les enfants. Ça, c'est normal, on les a eus, donc on les assume. Mais pour autant, on ne pouvait pas demander aux parents de ne pas retourner travailler et que les enfants aillent à l'école et faire un arbitrage en fait ou les garder à la maison alors qu'il n'y avait pas de place à l'école au début. Rappelez-vous, il n'y avait pas de place à l'école pour tous les enfants. Ça se traduisait par une perte de salaire. C'était une double peine pour les parents qui était contraire d'ailleurs à ce qui se disait de précarisation aussi d'un certain nombre de nos concitoyens.
Qu'est-ce que vous dites à ces écoles qui n'ont jamais rouvert leurs portes, qui n'ont jamais accueilli d'élèves finalement là à ce stade? Parce qu'il y en a eu, c'est une très petite proportion, mais c'est arrivé.
Bah, en fait, ce n'est pas à nous de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il y a un employeur, c'est l'éducation nationale. Il y a des villes ou des départements ou des régions qui sont censés mettre le bâti à jour. Ces six écoles-là n'ont pas ouvert. Il y a des raisons. Et il faut que ces raisons soient levées et étudiées pour pas que ça se reproduise.
C'est un manquement à leurs obligations
Je ne peux pas vous dire parce que c'est du cas par cas. Donc, est-ce que ces écoles n'ont pas ouvert parce que les conditions sanitaires ne permettaient pas de le faire, il est normal qu'elles protègent la santé des enfants.
Est-ce qu'on n'en a pas trop fait sur les conditions sanitaires avec le cercle d'au moins un mètre de distance au départ, le lavage des mains à plusieurs reprises dans la journée, le rappel des images dans les cours, la distance dans l'impossibilité de jouer à deux aussi dans les cours. Est-ce qu'on n'en a pas trop fait, sachant qu'on a finalement assez rapidement su que les enfants n'étaient pas contagieux?
On peut dire aussi le contraire. Est-ce qu'on n'aurait fait pas assez si jamais on aurait eu une recrudescence de l'épidémie? Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne commande pas une décision d'un conseil scientifique comme on commente un match de foot. Voilà. Nous, on est parents d'élèves. On n'est pas là pour faire des commentaires d'analyse de santé publique. Il y a un État dans ce pays. C'est à eux de prendre la responsabilité, d'écouter ou pas d'ailleurs les recommandations du Conseil scientifique. D'ailleurs, le président de la République n'a pas tenu compte de la note du Conseil scientifique du 20 avril qui disait qu'il fallait reprendre en septembre.
Voilà, qui était de ne pas retourner à l'école, effectivement, avant la rentrée de septembre.
Exactement. Donc, aujourd'hui, la situation fait que tout le monde se déconfine, tout le monde arrête de mettre des masques, etc. Donc, évidemment, moi, en tant que citoyen, mais aussi en tant que responsable de fédération, j'espère que ça se passera bien. Mais maintenant, il y a des inquiétudes qui sont d'un autre ordre. L'autre ordre, par exemple, ce sont tous ces parents qui ne savent absolument pas ce qui va être mis en place dans le supérieur pour ces élèves qui ont eu le bac et qui ont eu pendant plusieurs mois pas d'école, en fait, ou une école vraiment pas continuelle, et qui ne savent pas ce que met l'université en place pour tous ces élèves-là. Ça,
vous
c'est
avez
une vraie
des
inquiétude.
Délais. On vous donne des réponses. On commence à vous donner des dates, au moins
Non, aujourd'hui, on ne sait pas. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais entendu la ministre du supérieur, Madame Vidal, dire que ce qui a été mis en place dans l'université pour accueillir ces enfants-là, les dispositifs de rattrapage qui vont être mis en place, on ne sait pas. Alors que pendant le confinement, les petits effectifs ont été une vraie chance pour les enfants et pour les enseignants. Il y a 110 milliards d'euros qui vont être mis pour l'industrie. On ne sait pas combien de milliards vont être mis en place pour réduire les effectifs dans les classes, parce que ça, c'est efficace. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à l'effondrement de l'école, parce que l'école s'est effondrée pendant le confinement. Il faut se le dire, pas pour se morfondre, mais pour au contraire, parce que c'est une vraie opportunité pour faire autre chose. On ne peut plus continuer comme avant. Et on a quand même le sentiment qu'on est en train de faire comme si la vie normale allait reprendre et ne pas tenir compte de cette école qui a eu des vraies difficultés et tous ces enseignants qui ont souffert dans la séquence. Ces enseignants ont souffert, comme les enfants et comme beaucoup de parents aussi, notamment sur le télétravail.
Bien entendu. Qu'est-ce que vous dites donc pour la rentrée, a priori, bon? La date est calée, la date est fixée pour la rentrée scolaire. Vous êtes autour d'une table en ce moment pour en dialoguer avec les directeurs d'établissement, avec les représentants du rectorat ou des enseignants.
Alors, il y a des discussions qui sont entamées avec le ministère, mais j'ai envie de vous dire, c'est des discussions où on écoute, mais qui n'aboutissent à pas grand-chose, on va dire, de novateur et d'innovant. Ça n'a pas réellement d'intérêt. Vous voyez, par exemple, la question du numérique, ce n'est pas une question d'équipement. C'est comment est-ce qu'un outil numérique devient un lien entre un enseignant réel, en chair et en os, et pas un programme informatique problématique avec un enfant en chair et en os qui ne doit pas répondre à des attendus en forme algorithme, en forme format Facebook. Le numérique n'est qu'un outil de lien. Il ne saurait remplacer un enseignant. Et la crainte que nous avons pour la rentrée, c'est celle-là. C'est qu'on aille vers une société, vers une école qui devienne de plus en plus informatisée, où l'enseignant ne serait plus un métier, mais serait un emploi juste bon à évaluer les élèves avec des attendus, avec des résultats auxquels il faut répondre de façon automatisée. C'est ça qu'on craint. Cette école qui, comme aussi dans les entreprises parfois, ne résiste pas à cette orientation vers une sorte d'automatisation ou de robotisation du métier d'enseignant. L'école, c'est une aventure humaine, il faut le rappeler, et on a des vraies craintes par rapport à ça, notamment avec le débat qui est actuellement sur les questions d'évaluation des élèves, qui tendent à avoir des évaluations un peu comme des algorithmes, dont Parcoursup a été d'ailleurs un des prémices, plutôt que de renouer, de dire que enseignant c'est un métier, qu'il faut investir massivement dans l'école pour avoir des plus petits effectifs et former les enseignants à cette situation qui peut se reproduire.
Et les enfants dans tout ça, les enfants que vous représentez aussi à travers les parents, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont été marqués finalement, ou que c'est peut-être eux qui s'en sont le mieux sortis à l'issue de ces deux semaines? On est quand même dans une satisfaction des enfants et on a gommé cet épisode douloureux quand même pour beaucoup du confinement.
Il n'y a pas de situation homogène pour les enfants comme pour les adultes. Il y a des situations d'ailleurs qui ne sont pas dites. Par exemple, les enfants qui ont été victimes de maltraitance, libérer cette parole est un métier. C'est le travail des psychologues scolaires notamment, ou des psychologues tout court, ou des juges pour enfants aussi, dont c'est le métier avec leurs équipes de révéler cette parole-là. Tout ce travail-là de prendre soin des enfants n'a pas été révélé. Et d'ailleurs, on voit que dans cette mode des vacances apprenantes, on voit bien qu'on n'a rien appris. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui ont besoin de se reposer, ils ont besoin de se retrouver avec leurs parents dans d'autres considérations. Vous savez, nous on dit à la FCPE en ce moment que les vacances c'est à la mer, c'est pas à l'école. Et c'est cela qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre les enfants dans des cadences infernales. Sauf si on veut renouer avec la chanson de téléphone où finalement on finit au barbiturique, à l'alcool et aux antidépresseurs.
Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Rodrigo Arenas d'être venu ce soir, coprésident de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci beaucoup.
À suivre, Nathalie Lévy.
19h30 dans un petit instant avec le rappel des titres et puis on va se projeter vers le monde de demain. Économie, travail, consommation, vie quotidienne, les Français sont prêts à tout changer ou presque. C'est ce que révèle une étude IFOP pour La Tribune. On vous la dévoile ce soir sur Europe 1 et vous nous rejoignez au 3921 hashtag Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs, votre rappel des titres.
Qui sera maire de Marseille? Toujours impossible de le dire ce soir. La candidate de la droite, Martine Vassal, s'est retirée aujourd'hui de la course pour tenter de favoriser l'unité. Mais il y aura deux candidats finalement chez LR face à la chef de file de la gauche. Pas de majorité à ce stade. Le conseil municipal a lieu samedi. À retenir aussi ce soir, la CSI 93, compagnie de police mise en cause pour des violences et des trafics, va être dissoute, confirme le préfet de police. 4 de ses agents sont mis en examen. Rebondissement dans l'affaire Epstein aux États-Unis. Ce financier accusé d'exploitation sexuelle et qui s'est suicidé en prison. Son ex-collaboratrice a été arrêtée et inculpée pour trafic de mineurs. Elle l'aurait aidé à recruter des jeunes filles. Alerte sur les crèmes solaires pour enfants. Deux associations, dont Agir pour l'environnement, ont identifié des substances toxiques dans la quasi-totalité des 71 produits qu'elles ont testés. Et puis, il y aura bien du public à Roland-Garros. 20 000 spectateurs par jour seront admis. La billetterie ouvre le 9 juillet. Le tournoi démarre le 21 septembre.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. Demain, 18h. Assurément. À demain. Anissa, le temps du gris, du gris le matin, du soleil l'après-midi.
Oui, mais c'est du gris pas très inquiétant le matin. C'est un gris léger, vous voyez. Ce sont des passages nuageux, effectivement, demain sur l'ensemble du pays. Mais vous verrez que ces nuages vont très vite se dissiper pour laisser place à une journée assez agréable, un temps sec, ensoleillé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce temps-là. Attention tout de même en Provence, Alpes-Côte d'Azur et notamment sur les Alpes du Sud et la Corse. Nous risquons d'entendre le tonnerre gronder encore demain après-midi. Partout ailleurs, c'est assez agréable avec des températures toutefois bien en dessous des normales de saison. Avec demain 18 à 19 degrés en bord de Manche, 20 à 25 sur l'ensemble du pays. C'est en dessous des normales, hein. 25 à Paris et jusqu'à 30 degrés en bord de Méditerranée.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Ce soir, on se projette vers le monde d'après. Travail, consommation, mobilité, vie quotidienne. La crise a bouleversé nos habitudes. Quelles sont les attentes des Français pour demain? C'est l'objet d'une vaste enquête IFOP pour La Tribune que l'on vous dévoile ce soir sur Europe 1. Avec vous, Nathalie, pour détailler cette étude, Frédéric David de l'IFOP et Philippe Mabi, directeur de la rédaction de La Tribune.
Bonsoir Philippe Mabi.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue, bonsoir Frédéric Davy. Bienvenue
Nathalie.
À tous les deux dans ce studio pour regarder le monde changer. En tout cas, c'est ce qu'on a tous cru quand même hein, pendant ce confinement. C'est ce qu'on a beaucoup entendu. Les intellectuels, les philosophes le disaient. Ce ne sera plus jamais pareil après cette crise sanitaire, après ce confinement. Philippe Mabi, déjà, premier renseignement que l'on peut tirer de cette enquête.
Cette enquête que nous avons voulu faire, effectivement, plutôt dans la deuxième partie du déconfinement, donc en juin, Frédéric va en parler, on a voulu effectivement mesurer l'envie de changer des Français. Et ce n'est pas une surprise, les Français ont envie de changer. Ils ont assez bien vécu finalement le confinement. On leur a demandé ce qu'ils seraient prêts à se reconfiner si jamais il y avait un nouveau danger. Donc visiblement, ils disent oui, pourquoi pas, à presque 8 sur 10. Donc ça nous a beaucoup surpris. Est-ce que les Français se seraient habitués à cet état? Et surtout, je crois qu'ils ont pris conscience que le monde d'après, cette expression qui est née dès le jour du confinement, correspondait quand même une aspiration des nouvelles tendances qui se sont probablement accélérées avec cette crise. Le désir de consommer autrement, la proximité, un mot qui revient très fortement, le made in France, la souveraineté, la nécessité d'une plus grande indépendance du pays face à des nouveaux risques.
Frédéric Dabi, ce qu'il faut peut-être dire aussi en amont, c'est que quand même, je crois que dans cette étude, il y a un élément qui ressort, c'est que la peur, elle est encore vivace.
Oui, ça montre cette étude. Pourtant, on l'a fait du 18 au 19 juin. Ouais. Le confinement était fini depuis un mois et demi. Le déconfinement se passe plutôt bien. Et c'est vrai que de cette étude, je partage votre avis, Nathalie, reflète l'anxiété, l'inquiétude sanitaire, d'où cette vigilance avec 60% qui sont tout à fait sûrs de pouvoir se reconfiner et au total 80%. Et le fait que l'inquiétude économique est là, partout, massive. Hein. On a posé une question de projection pour la rentrée prochaine et on a... trois quarts de pessimisme sur la situation de l'emploi, 83% sur la situation économique. Mmh. Il y a cette inquiétude, mais en même temps, ce moment a été tellement fort, tellement inouï, tellement hors norme, que le côté « plus rien ne sera jamais comme avant » qu'on avait entendu en 2008, au moment de la crise financière, sur la nouvelle manière d'être dans le capitalisme, qu'on avait entendu en 2015, après la belle marche post-Charlie du 11 janvier sur les nouvelles solidarités, on a appelé, les Français ont cru à la rupture et l'inertie a été plus forte que le changement. Là, on voit vraiment qu'il y a une envie parce que l'événement nous a touchés intimement tous qu'on a envie de se projeter dans du changement sur les modes de vie et sur le travail.
Alors, on parle beaucoup évidemment d'économie et d'emploi, mais qu'est-ce qui vient juste après pour les Français et pour les auditeurs qui nous écoutent? Cette inquiétude, elle est là inévitablement, mais il y a d'autres priorités qui arrivent tout de suite après.
Alors, ce qu'on peut regarder, c'est... On a fait ce numéro, en fait, parce qu'on a un numéro d'été qui s'appelle « Réinventer la France ». Vous savez, c'est l'expression aussi qu'a employé Emmanuel Macron, qui même s'est invité lui-même à se réinventer. Et vous avez raison, cette crise nous a touchés dans l'intime. C'est-à-dire qu'elle nous a bousculés, elle nous a conduits à nous poser des questions sur quelle vie nous voulons vraiment vivre. Et moi, ce qui me frappe le plus, effectivement, c'est cette accentuation de tendances qui avaient lieu avant, de gens qui veulent remettre l'écologie, on l'a vu avec le municipal, au centre du jeu. Et c'est peut-être pas un hasard si l'écologie a pris autant d'importance lors des municipales. Il y a aussi une vraie volonté de continuer le télétravail, c'est-à-dire que les rapports hiérarchiques, je pense, les Français se sont dit, on peut en parler, c'est un peu la mort du petit chef. Il y a un désir d'autonomie, finalement, un désir aussi que montrer qu'on est capable de se débrouiller tout seul. On a bien vu, finalement, pour les masques, on nous a laissé livrer à nous-mêmes, les gens se sont fabriqués leurs propres masques. Et le télétravail traduit aussi le désir, je pense, des gens de pouvoir avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle, vie privée, et qu'au sorti de cette crise, on ait cette possibilité qui soit offerte par les entreprises.
Alors, il y a une vraie volonté du côté des salariés. Maintenant, comment l'entreprise va y répondre? C'est évidemment la question qui s'inscrit juste après. Et là, on est encore dans un moment qui va être compliqué.
Oui, compliqué, même si je suis frappé de voir qu'il y a eu un décalage entre la défiance très forte qui s'est... si je puis dire, adressé à la gestion gouvernementale de la crise du Covid. Alors, on l'avait déjà dit ici dans d'autres émissions, Édouard Philippe y échappait complètement, mais il y avait cette défiance. La défiance n'a pas touché les dirigeants d'entreprise. Hein. Dans d'autres enquêtes, on voit qu'on leur fait confiance pour assurer le bien-être, pour assurer la sécurité des salariés dans le cadre du retour à l'entreprise. C'est vrai qu'il y a une sorte de va-et-vient. Quand on interroge les Français sur les éléments qu'on souhaite changer dans son travail, bien sûr, c'est toujours le salaire qui arrive en tête, mais par rapport à ce qu'on mesurait il y a quelques années, ça s'est absolument effondré. On attend un travail intéressant, une quête de sens, et puis comme le disait Philippe, de l'autonomie. Et c'est en cela que le télétravail a été un poison délicieux. C'est-à-dire que ça a été moins télétravail qu'un téléconfinement. D'aucuns d'entre nous en ont souffert de devoir mêler travail, vie professionnelle, vie personnelle. Mais l'autonomie, le fait de s'organiser soi-même, gagner du temps par rapport au transport, par rapport à toutes les contraintes du quotidien, ça, c'est un acquis que les salariés ne voudront pas
auquel ils ne sont pas prêts à renoncer, effectivement. Et ce qu'on peut inscrire et qui va avec, et on va en parler dans un petit instant, c'est aussi peut-être le déménagement au vert, plus d'espace, plus loin. Alors, on en parle ça dans un petit instant, tous les deux. On est en ligne avec Johan, qui nous appelle de Strasbourg. Bonsoir Johan, bienvenue sur Europe 1.
Bonsoir.
Alors, vous, comment vous avez abordé la suite de ce confinement, ce déconfinement aujourd'hui? Comment vous regardez et comment vous participez à ce changement, ce monde d'après?
Moi, clairement, ça a été une révélation, hein, je vais vous le dire, parce que moi, j'étais un citadin, j'habitais Strasbourg. Je ne pouvais pas vivre sans ma ville, sans mon métro, sans mon tram, sans mon bus, tout ça. Et en fait, j'habitais chez ma copine à 20 km de Strasbourg, et j'ai passé le confinement là-bas, et c'était une révélation, ce calme, la campagne. Du coup, j'ai décidé de vendre mon appartement à Strasbourg et de vivre dans le petit village, tout petit, à 20 km de Strasbourg, mais complètement dans la nature.
Complètement dans la nature, ça y est. Et là, vous essayez, c'est adopté.
Ah, mais complètement. Mais vraiment, j'ai eu vraiment l'impression de découvrir quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et moi qui vivais que pour ma ville, que pour Strasbourg, finalement, je suis à côté et je suis très très bien.
Bon, voilà, Johan, évidemment, merci beaucoup de nous avoir appelé, les auditeurs. On a déjà fait effectivement ce thème. On voit qu'il y a une appétence, alors difficile parfois de sauter le pas, on se délocalise mais on ne change pas de métier, ou bien on change de métier mais on reste chez soi. Mais il y a un mouvement qui s'est opéré et qui va aller grandissant.
Oui, très clairement, les propos de Johan sont extrêmement intéressants. Dans cette enquête, 18% des Français souhaitent changer de logement. Bien sûr, c'est du déclaratif, il faut être toujours assez prudent. Mais comme par hasard, ce sont les personnes qui déclarent avoir le plus mal vécu le confinement qui veulent changer. Et très clairement, par rapport à d'autres enquêtes d'IFOP il y a quelques années, on est passé du logement cocon, du logement même bunker, à un logement ouvert. La première chose qu'on demande, c'est pas...
Ouvert et vert.
Ouvert et vert, très très bien. C'est pas un logement moins cher, même si ça a bien sûr une importance, mais on a intériorisé le coût du logement. C'est un logement avec un extérieur, un logement à la campagne, deux fois plus de citation qu'un logement en ville. Ça fait lien avec ce qu'on avait vu il y a quelques années avec les familles rurales, où le côté construction des villes à la campagne était déjà dans les attentes des Français, et le Covid a fait qu'amplifier cette tendance.
Philippe Mabi, on est prêt à renoncer à la culture, au spectacle, à la proximité des commerces et tout ça, pour privilégier sa vie au vert ?
Pas forcément, peut-être, effectivement, mais ce qu'on voit, c'est que les gens veulent effectivement, par rapport au prix très élevé des loyers ou des à l'achat dans l'ancien, notamment à Paris ou dans les grandes métropoles, ce désir d'avoir de l'espace, et alors avec un vrai enjeu, à mon avis, on va le voir après les municipales, sur les transports publics, c'est-à-dire le vrai défi, c'est les mobilités. Ce que cette crise a montré, finalement, c'est aussi une crise des mobilités. Là, aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir reprendre leur voiture individuelle parce qu'ils ont peur. Il va falloir investir dans les transports publics pour apporter à la fois la ville à la campagne et la campagne à la ville. Ça, c'est un autre problème. C'est un sujet aussi, on voit bien, tous les professionnels de l'immobilier qu'on interroge nous disent il va falloir construire autrement, il va falloir envisager le coworking, le co-living, des espaces partagés. Donc ça peut être aussi un changement très positif, notamment pour les plus jeunes, pour changer complètement de mode de vie. Et là, c'est vraiment très intéressant, cette crise.
La mobilité, on va y venir dans un petit instant, parce qu'effectivement, on voit que le grand gagnant de cette crise sanitaire, et puis là sûrement des municipales, avec ce que nous réserve un certain nombre de maires de différentes agglomérations, c'est le vélo. On en a beaucoup parlé cette semaine, mais on va en reparler évidemment parce qu'il est très plébiscité. On le voit dans cette enquête d'opinion, je crois qu'on est sur 57% des Français qui aujourd'hui se disent prêts à se déplacer à pied ou à vélo plutôt qu'en transport en commun. Le chiffre est là, on le développe, évidemment, et on s'en dit plusieurs choses dans un petit instant, et avec nos auditeurs également. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. On pense à demain. Comment allons-nous nous réinventer après cette crise? C'est une enquête IFOP qui nous dévoile tous ses secrets jusqu'à 20h. Nathalie, avec vos invités.
Oui, des Français qui sont presque prêts à tout changer. Hein. C'est le titre aussi de cette enquête d'opinion. On en parle avec Philippe Mabi, directeur de la rédaction de La Tribune, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Alors, on a évoqué le télétravail dans un premier temps, l'envie de verre pour son foyer. Donc, c'est effectivement des points clés. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans votre enquête, même si c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, le succès clairement aujourd'hui du vélo, 57% des Français aujourd'hui se disent prêts à se déplacer à pied ou à vélo. Mais quand même, hein, la voiture, on ne la met pas complètement au garage. Hein.
Absolument pas. On n'est pas sur une bataille d'Hernani que certains veulent nous imposer, ou tout voiture, ou tout vélo. On est plutôt sur un rééquilibrage dans les centres urbains. Et le succès d'Anne Hidalgo à Paris, ou de maire de sensibilité écologiste, provient de là. Mais il n'y a pas que les grandes villes. Même dans les villes de taille moyenne, l'idée de prendre plus les vélos, moins les transports collectifs, en l'occurrence des bus. Je pense qu'il y a un effet conjoncturel, oui. Nathalie, qui est lié toujours à cette crainte sanitaire qui, dans nos enquêtes, avait fortement diminué. Et là, depuis quelques jours, reprend parce qu'on entend parler de reconfinement en Australie, à Pékin, au Portugal, dans un lander en Allemagne. Voilà, c'est lié aussi, à mon avis, à un contexte particulier.
Philippe Mabi.
Oui, ben je crois qu'on voit bien qu'il y a eu ces élections municipales avec la poussée verte, hein, la poussée des écologistes, et tout ce qu'on disait sur ce désir d'aller d'apporter la campagne à la ville, d'apporter plus de douceur dans les mobilités. Il y a la crainte, mais il y a aussi une vraie tendance de fond qui avait déjà commencé. Vous avez vu qu'Anne Hidalgo à Paris, par exemple, a fermé plusieurs axes, notamment la rue de Rivoli, entre Bastille et la Concorde, donc c'est très symbolique. Et aujourd'hui, on parle de Panamsterdam, du nom de la ville d'Amsterdam, qui est un peu la capitale du vélo. Alors, on verra si aussi, avec le mauvais temps, avec l'automne, ça perdurera.
Quand l'hiver va arriver, ça va faire mal.
Certains, mais on voit bien la recherche d'alternatives et de mobilité douce. Je pense que l'un des enjeux, là aussi, pour les décideurs politiques, pour accompagner les citoyens, c'est d'apporter de la multimodalité, d'apporter des parkings, effectivement, aux portes des villes pour éviter de coincer les banlieusards, comme on a pu le voir, en fermant les villes aux voitures. Il faut probablement essayer d'accompagner les Français, les citoyens, dans ce désir de changement, parce que sinon, on va probablement provoquer plus de révoltes qu'autre chose.
Ouais, oui, il ne faut pas oublier que la révolte des Gilets jaunes a quand même été liée à une taxe punitive, à une écologie perçue comme... fait punitif sur la taxe sur les carburants. Ça a été quelque chose qui a été très fortement marqué, qui fait que souvent, on oppose questions socio-économiques et questions environnementales, et de moins en moins les Français les opposent. Au contraire, ils les juxtaposent, voire ils les considèrent comme complémentaires.
Alors, on parle aussi de consommation, bien sûr, dans votre enquête. On l'a évoqué d'un mot en préambule, mais je voudrais y revenir parce qu'on a vu naître quand même clairement des changements d'habitude. Philippe Mabi, on va en parler aussi avec un auditeur. Les Français ont consommé différemment pendant le confinement parce qu'évidemment, ils n'avaient pas envie d'aller en supermarché. Ils ont gardé ces habitudes ?
Alors, je crois que le sondage le montre très clairement. Il y a un désir de retour vers le local, la proximité.
Le Made in France.
Les gens sont prêts, on leur a posé la question. Et donc, est-ce que vous êtes prêts à payer plus cher pour un produit fabriqué en France ? Ils sont quand même 39% à le dire, jusqu'à 5% plus cher, et 26% de 5 à 10% plus cher. Donc c'est vraiment un indice très fort. Oui. Frédéric, vous pouvez peut-être commenter aussi ce point. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Jusqu'à présent, on pensait que ce n'était pas le cas.
Le Made in France n'est pas né de cette crise du Covid. On en parlait déjà lors de la primaire socialiste. C'est Arnaud Montebourg qui a amené ce thème. C'est vrai qu'il y avait toujours un décalage dans les enquêtes passées entre des représentations très positives associées au Made in France, sur l'emploi, le local, la qualité du produit. Et dès qu'on parlait argent, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher ? On avait vraiment une réticence là. On a au total 3/4 des Français qui seraient prêts à payer plus cher. Bien sûr, c'est du déclaratif. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on passera à l'acte. Mais on sent que des choses bougent également sur ce terrain-là, sur l'habitude de consommation, sur la consommation locale. D'ailleurs, quand on adresse au gouvernement une feuille de route pour les années à venir pour réinventer la France, on trouve le localisme, une souveraineté économique et les services du cours.
Philippe nous appelle de Nantes. Bonsoir Philippe, un auditeur. Hein. Bienvenue.
Bonsoir Nathalie Lévy.
Bienvenue
bonsoir
à vous.
Bonsoir monsieur.
Alors vous avez entendu, est-ce que vous êtes vous de ces 39% qui disent oui, je suis prêt à payer jusqu'à 5% plus cher pour avoir du Made in France par exemple?
Oui absolument, et je suis, alors faut peut-être qu'on va payer plus cher, mais moi très honnêtement avant je faisais beaucoup de courses en supermarché. Avec le confinement, on continue, on continue à faire du drive pour les produits courants de nettoyage, etc. Et pour les produits frais, donc commerçants, j'ai un petit agriculteur pas loin de Nantes qui vend des produits, etc. Et je m'aperçois que globalement, alors je ne sais pas si c'est 5%, mais ce n'est pas forcément beaucoup plus cher parce que du fait du drive, on est moins tenté dans les supermarchés à acheter des trucs qui ne servent pas forcément. Et cette économie-là, bah, on peut la dépenser dans des produits de meilleure qualité. On peut... En plus, il y a l'aspect sympa du commerçant de proximité qui vous reconnaît, qui vous conseille. Qui vous... Et moi, j'avoue que cette consommation-là, elle me plaît. Je pense que je vais continuer comme ça.
L'essayer, c'est l'adopter. Merci beaucoup, Philippe, depuis Nantes. Alors, peut-être que c'est plus le cas dans certaines villes, dans certaines régions. Il y a peut-être cette facilité aussi. Non, mais
je pense
que
c'est vraiment un phénomène général de développement durable. Oui. Effectivement, de vouloir consommer. On voit le phénomène des potagers en ville qui se développe beaucoup. On voit qu'il y a aussi le digital qui aide beaucoup aujourd'hui à donner cet accès. Et puis, moi, ce que je trouve très intéressant aussi dans les tendances des Français, c'est la recherche d'authenticité, la recherche effectivement de respecter les saisons. Par exemple, vous voyez bien, il y a des applications qui aujourd'hui sont très à la mode, qui montrent ça. Il faut voir aussi, les Français, pendant le confinement, se sont mis à refaire la cuisine plusieurs fois par jour, souvent pour des familles nombreuses. Donc, ça les a complètement, probablement, d'ailleurs, un problème pour les restaurateurs. Il va falloir qu'ils retournent aussi dans les restaurants pour les aider, parce que sinon, il n'y en aura plus. Mais il y a bien cette tendance à une forme un peu autarcique, alors, avec le danger, effectivement, alors, de se retrouver dans une société du sans contact, avec que de la livraison, auquel il faut prendre garde.
Ouais. Très, très clairement, la tendance est là. La seule crainte qu'on peut anticiper est une crainte sur les conséquences économiques de la crise. Dans la matinale de Mathieu Belliard, avant-hier, je crois, on entendait un maraîcher dire avec le déconfinement, tous les gens n'ont pas complètement rebasculé vers les grandes surfaces, mais il a perdu une partie de sa clientèle. Et dans un contexte de rentrée où les Français ont clairement anticipé les conséquences de la crise et l'iceberg ou la vague qui arrive sur le plan de l'emploi, ce qui va crisper les choses, peut-être va-t-on perdre ces pratiques vertueuses.
Alors venons-en, messieurs, à l'heure du remaniement, ou presque, venons-en à ces personnalités qui peuvent réinventer la France, qui ont les moyens aujourd'hui de conforter les Français, de les rassurer, de leur donner de l'élan. Alors, ils ont tous été testés, ou presque, dans votre enquête d'opinion. On commence par celui qui, aujourd'hui, attire tous les regards, c'est évidemment le Premier ministre, Édouard Philippe.
Oui, très clairement, Édouard Philippe arrive en tête. La question n'est pas anodine, c'est confiance ou pas confiance pour réinventer la France, alors que d'aucuns disent que Édouard Philippe n'est pas capable d'être sur ce terrain-là. Il faut que le président change de Premier ministre pour la dernière ligne droite du quinquennat. Ça reflète cette hiérarchie Édouard Philippe qui devance même Nicolas Hulot, qui est toujours le champion en termes de popularité de papier sur des questions de bonne mauvaise opinion. Ça reflète l'état de grâce qu'il connaît depuis maintenant quelques semaines, lié à sa gestion de la crise, lié à sa popularité en décalque avec celle d'Emmanuel Macron, qui arrive 13 points derrière.
C'est quand même considérable.
Et puis, une fois de plus, dans un cadre plus stratégique, s'il a des scores particulièrement plébiscitaires dans les segments de droite. On doit y réfléchir au gouvernement.
Voilà. La surprise peut-être de ce test-là sur précisément les personnalités, c'est la troisième position, 42%. Et je vous laisse le dire, Philippe Mabie, c'est le professeur
Didier Raoult, Marseillais, le Panoramix avec sa recette magique dont on ne sait pas si elle marche ou pas, parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Il est lui le représentant un peu de ceux qui contestent ou qui peuvent critiquer le système. On sait qu'il a été un peu le champion de ceux qui disaient Big Pharma, comme on dit, l'industrie pharmaceutique veut gagner de l'argent grâce à ces épidémies. Lui, il avait proposé un traitement pas cher. Donc effectivement, là, moi, je ne peux pas juger personne. Seuls les scientifiques pourront dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'en termes de popularité, il s'en est d'ailleurs plutôt glorifié, le professeur Raoult.
Et en termes de populisme,
ça a vraiment marché.
Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a une forme de populisme un peu scientifique qui s'est développée dans la crise? C'est possible. En revanche, les autres, Frédéric, on en discutait, les autres, entre guillemets, anti-système, que ce soit la France Insoumise ou que ce soit le Rassemblement National, sont assez loin dans le classement. Ça aussi, ça nous a surpris.
Oui,
on les attendait plus haut.
Oui, mais peut-être parce que Marine Le Pen a essayé d'être tribun dans cette crise. Jean-Luc Mélenchon aussi s'est planté finalement de communication. Ils se sont plantés dans cette crise, non, Frédéric Dabi?
Je ne dirais pas tout à fait ça. Je partage le fait qu'il n'était pas assez audible, parce que dans cette période de crise intense ou d'inquiétude, les Français écoutaient surtout les pouvoirs publics. Marine Le Pen a joué, comme dans toutes les crises, la posture de Cassandre. Je vous l'avais bien dit, qu'il fallait fermer les frontières avec la Chine, qu'il fallait se confiner plus tôt. Ça marche à court terme, mais sur la question des solutions... Le Rassemblement National, comme la France Insoumise, et c'est intéressant de voir que les sympathisants RN comme France Insoumise choisissent plus fortement Didier Raoult comme capable de réinventer la France que leur propre leader, où ça se joue à quelques points près. Il y a un déficit de solutions. Et justement, dans cette période de gros temps, les Français voulaient des personnes rassurantes, d'où Édouard Philippe, d'où un élu local comme Xavier Bertrand. Hein. Ouais. C'est pas le sujet de ce soir, mais cette période a montré à quel point le fait régional s'était imposé. Et les grands élus locaux, que ce soit Xavier Bertrand, que ce soit Arnaud Montebourg ou surtout Christian Estrosi, ont gagner des points sur la capacité à gérer localement, à trouver des solutions face à un État central jugé déficient.
Je me permets, hein, c'est vraiment ma question personnelle. Je vois François Baroin à 36% dans cette enquête et Yannick Jadot à 26%. Alors, on est dans une enquête avant le second tour des municipales, hein, pour être tout à fait clair vis-à-vis de nos auditeurs. Mais je m'étonne de ça parce que François Baroin, on l'a peu entendu, voire pas entendu pendant cette crise sanitaire. Alors, expliquez-moi. Et puis, Yannick Jadot, alors, on a eu envie d'écologie dès le début de cette crise et il n'est pas a priori l'homme plébiscité.
Ça montre qu'il faut faire très attention à transposer les résultats des municipales où il y a eu non pas une vague verte ou une déferlante mais une poussée d'Europe Écologie des Verts. Je rappellerai que les villes de plus de 10 000 habitants restent gérées en énorme majorité par la, droite et par le parti socialiste. C'est vrai que la marche reste haute pour Europe Écologie des Verts et même pour Yannick Jadot pour transformer un vote local en vote de transformation nationale. Dans une enquête d'attention de vote IFOP fiduciale, il n'obtient que 8%. Il est même devancé par Jean-Luc Mélenchon. Bon, on est très loin du vote, bien sûr, soyons prudents, mais voilà, il y a eu une continuité, vote aux européennes, vote aux municipales pour Europe Écologie des Verts. Rien ne dit que ça se transposera sur un scrutin aussi national et aussi central que la présidentielle.
Un mot juste de François Baroin quand même, il arrive très haut, non?
Oui, alors bon, est-ce qu'il a réussi à imprimer pendant cette crise l'image des Français? Je ne sais pas. Effectivement, on voit en François Baroin peut-être le sauveur de la droite. Mmh. Bon, ce qui est intéressant, c'est quand même le positionnement, vous l'avez dit, d'Édouard Philippe. C'est-à-dire que c'est lui aujourd'hui qui est finalement le centre de gravité du macronisme. Il est à la fois très soutenu, quand on va dans le détail, par l'électorat d'Emmanuel Macron, parler En Marche, alors que lui-même n'est pas En Marche, hein, il est toujours, il n'a jamais adhéré, et en même temps il est soutenu, je crois, à deux tiers à peu près des Républicains, donc ça veut dire qu'ils ne lui en veulent pas vraiment d'avoir, entre guillemets, trahi son parti, et qu'il est aujourd'hui une sorte de centre de gravité. C'est peut-être pour ça que c'est difficile pour Emmanuel Macron depuis, on entendait peut-être, bon, je ne sais pas s'il décidera de s'en séparer, mais c'est probablement difficile de s'en séparer, parce que du coup, on ne sait pas très bien qui va jouer ce rôle aujourd'hui de polarisation, d'une sorte de synthèse entre l'écologie et le réalisme, entre l'économie et le désir des Français de vivre différemment après cette crise. Et peut-être que Édouard Philippe a marqué des points, effectivement, par son sérieux, par son calme.
Ce qu'on voit quand même, effectivement, c'est quand même que les personnalités de la droite arrivent quand même assez haut dans ce classement des personnalités post-crise.
Oui, vous avez raison, Nicolas. Sarkozy est également cité au niveau de réinventer la France pour les Français, c'est peut-être être moins doté d'idées que d'une forte personnalité, qu'un sens de l'État. Et dans ce sondage se reflète une sorte de paradoxe sur le champ politique français très net. D'un côté, nous avons beaucoup de personnalités de droite qui incarnent quelque chose, et on vient de le dire via Philippe, que l'espace de droite est complètement phagocyté, cannibalisé par le couple exécutif et par Édouard Philippe. De l'autre côté, les personnalités de gauche arrivent extrêmement loin. Le premier, c'est Arnaud Montebourg, qui est quand même retiré, si je puis dire, du champ politique, alors que très clairement, les municipales ont montré qu'il y avait un espace à gauche, à la gauche d'Emmanuel Macron, avec les listes de gauche unies, PS, PC, Europe Écologie des Verts.
Merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir en tout cas pour nous révéler le résultat de cette grande enquête le monde d'après versus le monde d'avant pour les Français. Voilà ce qu'il en est et c'est dans la Tribune évidemment
qui sort demain en kiosque
merci. Vendredi. Merci beaucoup Philippe Mabie et Frédéric Davy. D'ailleurs on se retrouve demain Frédéric à 18h30, 19h dans les grandes voies. Merci beaucoup. La suite sur Europe 1, c'est de la musique avec Émilie Mazoyer aux commandes de après 20h. C'est un concert ce soir, le concert caritatif Live 8, c'était il y a 15 ans pile avec Marc Cartney, U2 et Stevie Wonder. Voilà, la musique à l'honneur après 20h, c'est sur Europe 1. Nous, ici même, demain, 18h, pas 20h, pour écouter ensemble le monde changer. Très belle soirée.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.